7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous. Un bon réveil, on vous le souhaite du fond du cœur. Nous sommes le lundi 10 juin, 12e sacre pour Rafael Nadal à Roland-Garros. Il se confie ce matin en exclusivité sur Europe 1. Il sera mon invité exceptionnel à 7h45. Dans l'actualité également ce matin, l'inquiétante défiance à l'égard des vaccins, épidémie de rougeole dans le sud, mortalité infantile en forte hausse. Les Français se vaccinent de moins en moins. Pourquoi ? Les conséquences sont dévastatrices. Dossier complet à 7h20 dans Europe 1. Va plus loin. Ces élus de droite qui rejoignent Emmanuel Macron, nouveau coup dur pour le parti des Républicains. La décomposition continue après la débâcle des européennes. On vous dit tout dans quelques instants. C'est le lundi de Pentecôte. Et pour vous, c'est quoi ? C'est une journée de travail ? C'est un jour férié ? Tout le monde n'est pas à la même enseigne pour cette journée de la solidarité. Décryptage dans le journal de 7h30. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminin, de la Coupe du Monde de foot féminin. À 8h35, votre nouveau rendez-vous, le journal de la Coupe du Monde avec Jérôme Lacroix, Europe 1, radio officielle de la compétition. Voilà pour le programme. On est ensemble jusqu'à 9h. Céline Dacosta, bon réveil.
Et bon réveil à tous en ce lundi 10 juin. Il est 7h, bienvenue. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Le premier journal de la matinale avec vous, Hélène Zellani, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Un enfant est mort, l'autre dans un état critique. Ils ont été renversés hier à Lorient par un chauffard qui voulait échapper à un contrôle de police. Information qu'Europe 1 vous révélait dès hier. Les Sables d'Olonne en deuil. Une marche silencieuse se tiendra ce matin sur le port à la mémoire des 3 marins sauveteurs morts vendredi en tentant de secourir un pêcheur. Et puis Ave, amis auditeurs, imaginez ce journal en latin. Pour la première fois, la radio du Vatican diffuse des informations dans un latin adapté au 21e siècle.
Extraordinaire. 8h15, l'invité d'Audrey Crespo-Mara sera le député de la France Insoumise, Éric Coquerel.
Europe 1. Un homme est donc toujours activement recherché ce matin. Il était au volant de la voiture qui a percuté 2 enfants sur un trottoir. C'était hier en fin de journée à Lorient, Salomé-le-Grand.
Et oui, 2 enfants de 10 et 7 ans. Le premier n'a pas survécu. Le second a été hospitalisé dans un état grave. Tard hier soir, son pronostic vital était toujours engagé. Tout a commencé 7 kilomètres plus tôt à Kéven lors d'un contrôle routier. Le conducteur a fait mine de s'arrêter avant de redémarrer en trombe en direction de Lorient. Les gendarmes le prennent alors en chasse à distance jusqu'à l'entrée de l'agglomération. Le véhicule qui circulait à vive allure a alors emprunté une voie de bus, percuté une autre voiture en sortie de rond-point sans faire de blessés avant de faucher donc les 2 enfants sur un trottoir. Le chauffard a pris la fuite avec sa passagère dans la voiture d'abord qu'ils abandonnent à quelques centaines de mètres de l'accident, puis à pied. Ils sont activement recherchés depuis. Une enquête pour homicide involontaire aggravé et blessure involontaire aggravée a été confiée au commissariat de police de Lorient.
Voilà les informations de Salomé Legrand.
La droite en pleine décomposition, 72 élus ont annoncé hier qu'ils appelaient à soutenir le président Macron.
Oui, nous voulons la réussite du président de la République et du gouvernement car rien ne se construira sur un échec. C'est ce qu'ils écrivent dans une tribune publiée dans le JDD sous la houlette du maire d'Angers, Christophe Béchu. Un nouveau coup dur après l'échec aux européennes et les départs de Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse. Pourtant, les Républicains tentent de faire le dos rond, même si l'inquiétude est de plus en plus grande, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, pour beaucoup à droite, cette tribune sonne comme un avertissement. C'est un signal négatif. On a un parti recroquevillé, explique froidement un député LR. À 9 mois des municipales, ils sont nombreux à anticiper de nouveaux départs. Beaucoup de maires vont rejeter les étiquettes, surtout la nôtre, confie un cadre du parti, très inquiet, avant de trancher. Notre présence dans les territoires, c'était pourtant tout ce qui nous restait. Le moral n'est pas très bon au siège des Républicains. Un conseiller soupire. Ce coup de com' des maires tombe mal. Mais le vrai coup de tonnerre, c'est le départ de Pécresse. Ça peut être fatal pour le parti. Ligne politique, incarnation, il faut tout reprendre, laisse entendre un membre de l'équipe dirigeante du parti. Avant de conclure, lucide, la présidentielle est de toute façon déjà perdue.
Jean-Rémy Baudeau, et puis vous vous souvenez peut-être de cet arbre qu'Emmanuel Macron avait offert à Donald Trump lors de sa visite d'État à Washington l'an dernier. Il devait symboliser l'amitié entre les deux dirigeants. Eh bien cet arbre est mort alors qu'il était encore en quarantaine.
Europe 1, il est 7h03.
À 10h30 ce matin, l'ambiance sera en recueillement au Sable d'Olonne.
Oui, ce sera le coup d'envoi de la marche silencieuse à la mémoire des 3 sauveteurs décédés vendredi. Ils étaient sortis en pleine tempête pour porter secours à un pêcheur en perdition. Leur bateau a chaviré. Ce matin, certaines questions restent sans réponse. Pourquoi ce pêcheur qui n'a pas été retrouvé a-t-il pris la mer ? Faut-il réglementer les sorties en fonction de la météo ? Écoutez ce reportage au Sable d'Olonne signé Pierre-Baptiste Vanzini.
Pas de polémique. Aucun des sauveteurs de la SNSM que nous avons pu rencontrer ne veut accabler le pêcheur sorti en mer alors que la tempête Miguel commençait à souffler. Comme le dit le président de la SNSM, Xavier Delagorce, on leur a demandé d'aller porter secours. Ils sont sortis.
C'est l'engagement total. Parce qu'ils auraient très bien pu dire, nous on sort pas de ce temps-là. Et personne ne leur aurait reproché de pas sortir. Et bien ils sont allés sans état d'âme.
Pas question pour les gens de mer de réglementer l'océan, d'interdire les sorties en fonction de la météo.
La mer est libre. La mer est libre, et puis comment fixer le curseur entre des marins éprouvés et des marins qui sont, entre guillemets, des amateurs? Moi j'ai envie de dire, mais cher monsieur, cher madame, soyez responsables. Il faut qu'on continue à marteler les messages de prévention.
Ils sont 8000 bénévoles formés par la SNSM à participer à ces actions de sensibilisation. Une association qui assure la mission d'État du sauvetage en mer et qui a besoin de dons pour boucler son budget. Les journées nationales du sauvetage en mer, c'est le 28 et 29 juin prochain.
Pierre-Baptiste Vanzini au Sable d'Olonne, la commune qui d'ailleurs lance un appel aux dons pour aider les familles des trois sauveteurs. Le conflit dans les services d'urgence se durcit après la Riboisière. Ce sont des personnels de l'hôpital parisien Saint-Antoine qui se sont mis en arrêt maladie. Demain, une nouvelle manifestation est prévue dans les rues de Paris pour demander des mesures immédiates, notamment des créations de postes et de meilleurs salaires.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani, avec une marche des fiertés en banlieue. C'est la première. Elle se déroulait hier à Saint-Denis, à Saint-Denis même précisément, dans le 9-3. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 7h07, votre matinale à l'info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. La première marche des fiertés, ça s'est passé en banlieue, dans les rues de Saint-Denis hier.
Oui, trois semaines avant la Gay Pride à Paris, plus d'un millier de personnes voulaient dire non à l'homophobie et montrer qu'on peut afficher son orientation sexuelle, quelle qu'elle soit, même dans les banlieues. Un cortège dans une ambiance sereine, mais qui n'a pas plu à tout le monde. Théo Manval.
Elle a grandi près de la cité des Tarterets, à Corbeil-Essonne. L'homophobie dans les quartiers, Rachel connaît bien. Pour elle, cette marche est historique.
C'est la première fois qu'il y a une Pride en banlieue. Du temps où j'ai fait mon coming out au lycée, ça a été 2 ans d'harcèlement, insultes, injures, crachats et coups. 2 à 3 bastons par jour. Donc à un moment donné, ça suffit. On en a marre, on n'a plus à subir ça.
Et si, en grandissant, elle dit avoir subi autant de violences ailleurs qu'en banlieue, elle a tenu à défiler ici à Saint-Denis. Le cortège passe en centre-ville, peu de tenues excentriques, mais des drapeaux multicolores sur le passage. Quelques sourires.
Bah c'est bien, ils s'affirment. C'est un pas vers l'acceptation.
Mais il reste encore du chemin. Quand on s'éloigne un peu, les propos sont moins polissés.
Ça me choque, franchement, de voir ça dehors comme ça. J'ai 16 ans, j'ai pas envie de voir des gens comme ça dehors.
Des gens comme quoi?
Voilà quoi, un peu chelou.
Moi, si c'était moi, je me serais caché un peu.
Mais un homme, c'est la honte.
Dans les lieux publics, ils font des trucs pas bien.
Comme quoi?
Bah, ils s'embrassent.
Ça, c'est pas bien?
Bah ouais.
Si c'était un homme et une femme, par exemple?
Non, même ça, c'est pas bien. Mais encore plus eux.
La marche se termine sans animosité. Les associations LGBT rappellent tout de même ce chiffre. Le nombre d'agressions recensées a augmenté de 15% l'an passé.
Théo Manval.
L'actualité en latin sur les ondes radiophoniques, c'est une première.
Et oui, la radio du Vatican raconte désormais les activités du pape en langue latine, toutes les semaines et en direct. À Rome, Blandine Hugonnet.
Hebdomada Pape. Notizie Vaticane Latine Reti.
La semaine du pape, journal du Vatican, en langue latine. Dans un studio de Radio Vatican, le technicien vient de lancer le jingle.
Salute in plurimam omnibus vobis.
Derrière son micro, le journaliste est en direct, visiblement très à l'aise. Il salue ses auditeurs en latin. Le pape en Roumanie, le décès d'un cardinal pendant 5 minutes. Le présentateur revient sur ce qui s'est passé au Vatican pendant la semaine. Ce petit journal en latin sera diffusé tous les samedis midi et comme pour un vrai journal radio, il y aura même des reportage en langue latine. Sauf que pour parler aux catholiques d'aujourd'hui, il faut ressusciter cette langue morte, mais au Vatican ce n'est pas un problème. Un service est spécialement chargé d'inventer de nouveaux mots, un latin moderne déjà utilisé tous les jours sur Twitter pour le compte en latin du pape François, mais aussi dans les murs du Vatican où le distributeur de billets s'exprime dans la langue officielle du Saint-Siège. Rome, Blandine Gonnet, Europe 1.
Et ce petit journal en latin est disponible en podcast sur le site de Radio Vatican, rassurez-vous, avec retranscription et traduction.
Carpe diem.
Voilà, et de 12 plus que jamais, Rafael Nadal est le roi de Roland-Garros. L'Espagnol a triomphé hier pour la 12e fois sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. Victoire comme l'an dernier face à l'Autrichien Thiem en 4-7 et 3 heures de jeu. Rafael Nadal qui sera votre invité exceptionnel, Nikos, à 7h45. Un petit extrait.
C'est
toujours des émotions très importantes et au fur et à mesure des années, nous savons que les occasions ne sont pas tout le temps les mêmes, il y en aura de moins en moins. Mais au-delà de tout cela, l'idée c'est d'avoir des bonnes sensations, d'en profiter, de prendre plaisir sur le cours et le fait d'avoir remporté 12 trophées de Roland Garros, c'est incroyable.
Unique et très bonito et très spécial pour moi.
Voilà Raphaël Nadal que vous retrouvez en intégralité à 7h45.
Si je vous dis fragrans feminae, ça veut dire parfum de femme. Et le vôtre est tellement magnifique tous les matins lorsque vous
dommage
rentrez
à la radio,
dans le studio.
Femmes se sont pas.
Ouais, c'est pour ça que je voulais le partager. Merci beaucoup. C'était le journal de 7h présenté par Hélène Zelani.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h10 et c'est l'heure, Nico, comme chaque matin, de retrouver Carole Ferry. Elle est sur le terrain.
Elle est sur le terrain, mais elle est où? C'est question presque existentielle ce matin. Vous êtes où, Carole? Bonjour.
Bonjour, Nico. Bonjour à tous. Je suis en plein centre-ville du Mans, place de la République. À côté de moi, j'ai une balance géante, une balance qui pèse depuis hier. Toutes les voitures de course qui prendront le départ des 24 heures du Mans samedi. Mm-hmm. On passe en revue ici les voitures, mais aussi leurs pilotes. J'ai suivi hier le parcours de Thomas Laurent. Ce jeune Vendéen n'a que 21 ans, mais déjà deux podiums ici au Mans.
Donc là, on va faire le check-in de la licence. Donc on présente la licence, on regarde si c'est valide, si le pilote n'a pas fait de grosses erreurs pendant le championnat et qu'il est toujours apte à conduire.
J'ai ma licence cette fois-ci.
Et une fois, vous ne l'aviez pas?
Ouais, la première année, j'étais un petit peu perdu et j'ai oublié ma licence. Et l'an dernier, je l'avais oublié dans la voiture, elle était tombée de ma poche.
C'est bon pour vous?
Merci beaucoup. Et donc là, du coup, bah, je vais aller me changer. Donc là, on a des panneaux noirs pour nous isoler un petit peu, avoir un petit peu d'intimité.
Pas beaucoup d'intimité quand même. Hein.
Après, j'ai envie de vous dire, on est entre mecs. Hein, donc.
Alors maintenant que vous êtes en combinaison, qu'est-ce qui se passe?
Et bien là, maintenant, du coup, on va checker les équipements. Le casque, la combinaison, tous les sous-vêtements.
Vérifier qu'ils sont bien enregistrés, pour savoir s'ils sont bien inifugés, de façon qu'en cas d'accident, ils puissent résister au feu qui pourrait éventuellement se déclarer dans la voiture.
Et du coup, bah voilà, donc là, on vient de tout finir. Et puis là, on va aller se peser avec le casque.
77-70.
C'est bon. Cette année, pas de boulettes, tout est bon.
En fait, on pèse le pilote d'un côté et la voiture de l'autre, c'est ça, Carole, hein?
Oui, exactement. On vérifie que la voiture et son pilote ne dépassent pas le poids autorisé. Mm-hmm. La sécurité est également contrôlée, bien sûr. Est-ce que les portes s'ouvrent bien? Est-ce que la tête du pilote est bien protégée? Etc.
Et on fait ça en public, en fait.
Oui, c'est ça. Et c'est vraiment ce qui fait du pesage, hein, puisque ça s'appelle comme ça, un événement exceptionnel. Vous voyez défiler les voitures de course sous vos yeux. Les pilotes arrivent par la même entrée que le public. Un rituel que René ne rate jamais depuis 25 ans.
Ah, pour être un moment rare, c'est vraiment le moment rare, parce que donc là, les pilotes, on les côtoie vraiment de très près au moment du pesage. Il y a Alonso qui est là et tout le monde voudrait bien l'avoir.
Fernando Alonso.
Je vais essayer d'avoir un autographe de sa part.
S'il vous plaît, Fernando,
please.
Ah, merci beaucoup.
J'ai réussi à avoir donc un autographe de Fernando Alonso. Ben, c'est quelque chose de unique. On ne vit pas ça tous les jours.
Voilà, et vous avez même des passionnés qui sont déjà là, hein, Nikos, juste à côté de moi, pour avoir la meilleure place, alors que le pesage ne reprend ce matin qu'à 10h30.
La course mythique des 24 heures du Mans, il faut le vivre, hein, c'est une expérience. Incroyable. Top départ, samedi, 15h. Merci, Carole Ferry.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre l'édito écho avec vous, Nicolas Barré, bonjour.
Bonjour Nikos.
On parle de quoi ce matin?
Et je vais vous parler du Royaume-Uni, du chèque britannique, celui du Brexit, que certains à Londres ne veulent pas payer.
À 7h20, épidémie de rougeole dans le sud, mortalité infantile en forte hausse. La défiance à l'égard des vaccins fait des ravages, on en parle dans quelques instants dans Europe 1. Va plus loin avec Mélanie Gomez, à tout de suite.
On reste avec Nikos Aliagas sur Europe 1, il est 7h14. Il est 7h16, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Toujours aucune trace du chauffard qui a renversé deux enfants à Lorient alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle de police. L'un d'entre eux a perdu la vie, l'autre se trouve dans un état critique. Marche silencieuse ce matin en Sable d'Olonne en hommage aux trois sauveteurs décédés vendredi dans le chavirage de leur bateau. Un appel aux dons est lancé pour aider leur famille. 1 million de manifestants dans les rues de Hong Kong hier pour dire non à Pékin. Ils protestaient contre le projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. Un projet malgré tout maintenu. Football, après l'Euro 2016, le Portugal remporte le deuxième trophée de son histoire. La Ligue des Nations, victoire sur les Pays-Bas, 1-0.
Europe 1.
L'économie maintenant, Nico, c'est l'édito éco avec la banque Les Derniers pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Les Derniers, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec Nicolas Barret, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. C'est une menace sérieuse. Boris Johnson, qui est en piste pour succéder à Theresa May comme Premier ministre du Royaume-Uni, ne veut tout simplement pas payer à Bruxelles la facture du Brexit.
Oui, et c'est une histoire assez invraisemblable. Boris Johnson a prévenu ce week-end dans une interview au Sunday Times. Lui, Premier ministre, il n'est pas question que Londres paye cette facture. Cette facture, c'est l'argent que doit Londres au titre des prochains budgets européens pendant la période de transition durant laquelle le Royaume-Uni continue de participer à l'Europe. Il n'y a donc rien d'anormal là-dedans. D'ailleurs, pas un juriste au Royaume-Uni ne conteste le bien fondé de cette facture qui s'élève entre 40 et 45 milliards d'euros.
En fait, ne pas payer, c'est ce que dit aussi Donald Trump, le président américain.
Alors oui, lors de sa visite à Londres il y a quelques jours, il a exactement dit ça. Si j'étais eux, je ne paierais pas. Il a même conseillé à Boris Johnson, qu'il soutient publiquement, de sortir sans accord de l'Union européenne. Ce que veut Boris Johnson en menaçant de ne pas payer, c'est négocier de meilleures conditions de retrait. L'argent sera conservé jusqu'à ce que nous ayons plus de clarté sur le chemin à prendre, dit-il. Il s'oppose aussi à l'accord qui a été trouvé pour contourner le problème de la frontière irlandaise et il veut utiliser cet argent que doit Londres au budget européen comme une menace, même si juridiquement ça ne tient pas la route une seconde.
Oui, juridiquement ça ne tient pas la route, mais c'est un détail pour Boris Johnson, non ? C'est ça ?
Alors oui, vous savez, Bojo, comme on le surnomme, ne fait pas dans le détail. Effectivement, il y a quelques années, il disait « J'ai autant de chances de devenir Premier ministre que de me réincarner en olive ou d'être décapité par un frisbee. » Eh bien, on y est presque. À l'époque où il était encore maire de Londres, Boris Johnson avait monté ce mensonge pendant la campagne pour le Brexit en prétendant que le Royaume-Uni envoyait chaque semaine un chèque de 350 millions de livres à Bruxelles pour financer l'Europe. Il y avait même des bus qui circulaient avec ce slogan. Il avait aussi raconté que Bruxelles voulait empêcher les enfants de moins de 8 ans de gonfler des ballons, ou encore que les bureaucrates européens voulaient interdire le recyclage des sachets de thé et imposer même une taille unique pour les cercueils et les préservatifs. Oui, avec lui, on n'est jamais déçu. Alors évidemment, il se trouve toujours des gens pour gober ces fake news. Avec cette menace sur le chèque britannique, Boris Johnson va un cran plus loin, et s'il devient Premier ministre, les Européens savent à quoi s'en tenir.
Ça fait rire Céline Dacosta et ça fait rire aussi Mélanie Gomez à l'histoire du cercueil, pas du préservatif. Je ne me permettrai pas. Nicolas Barret, c'était l'édito Écho sur Europe 1.
Europe 1, Nikos Aliagas.
Il est 7h19, place à l'enquête de la rédaction Nikos. Europe 1 va plus loin et consacré ce matin à la baisse de la couverture vaccinale ces dernières années en France.
Et les conséquences sont dramatiques. Chaque mois, des enfants meurent en France à cause de la réapparition de maladies infectieuses, des maladies qu'on avait presque oubliées dans notre pays. Tiens, par exemple, la rougeole. Les cas se sont multipliés et dans certaines régions, c'est la panique, notamment en ce moment dans le sud de la France. Bonjour Mélanie Gomez.
Bonjour.
Vous êtes la spécialiste santé de notre rédaction, évidemment. Éclairez-nous, qu'est-ce qui se passe en Occitanie en ce moment ?
Eh bien, c'est la région la plus touchée en ce moment. Depuis le début de l'année, il y a déjà eu 324 cas de rougeole recensés. Parmi eux, 91 personnes ont même dû être hospitalisées, dont 25 avec des complications très sérieuses, notamment neurologiques.
Mais est-ce que c'est lié à la baisse de la vaccination ?
Alors oui, ça, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, si c'est l'Occitanie qui est à ce point touchée, ce n'est pas un hasard. C'est l'une des régions où l'on se vaccine le moins contre la rougeole. 60% de la population seulement dans certains départements. Pourtant, l'OMS le dit, pour que ce virus arrête de circuler dans un territoire, il faut 95% de la population vaccinée.
Et justement, nous sommes allés sur le terrain voir les dégâts de la rougeole dans le sud, précisément à Toulouse. Une école d'ingénieurs a été frappée brutalement par une épidémie. 17 étudiants contaminés en quelques jours, 5 hospitalisés. Cette école devait fêter son centenaire ce week-end. Tout a été évidemment annulé. Reportage de notre correspondant Benjamin Péter.
Il y a d'abord eu un premier cas il y a quelques semaines, puis tout s'est accéléré le week-end dernier. L'école attendait plus de 3000 personnes pour ce centenaire. Alors Éric Ladjé, le directeur de l'INP de Purpan, a préféré tout annuler.
Ce qu'il ne faut pas actuellement, c'est mettre des étudiants ensemble. Tout simplement, c'était raison gardée que de dire, écoutez, tant pis, la mort dans l'âme, on annule. Si je dois tirer certainement un avantage de ça, c'est qu'ils se sont aperçus qu'il pouvait y avoir des conséquences qui étaient très très importantes, parce qu'en arriver à arrêter ce type d'événement, qui est quand même très important pour l'école, ils se sont rendus compte que, il fallait pas rigoler, quoi.
Dans l'école, des affiches invitent les étudiants à vérifier s'ils sont bien protégés. Alexandre, qui est en deuxième année, est rentré chez lui dans le Lot-et-Garonne pour s'assurer qu'il ne risquait rien.
La direction nous a demandé de contrôler qu'on était bien vaccinés. Je suis rentré chez moi un week-end. J'ai récupéré mon carnet de santé et j'ai vérifié que j'avais bien mes deux doses nécessaires, et c'était le cas, donc tranquille.
À l'agence régionale de santé, le docteur Anguina remarque que ces jeunes entre 18 et 24 ans connaissent souvent très mal leur statut vaccinal.
Les gens pensent souvent que la rougeole, c'est une maladie infantile. Ça circule dans toutes les tranches d'âge. Il existe des complications qui peuvent être graves, une complication neurologique. Dans un cas sur trois, on peut avoir un décès.
Alors sur les 5 étudiants hospitalisés, 4 élèves ont pu rentrer chez eux. Le 5e est hors de danger. Quant aux festivités du centenaire de l'école, elles ont été reportées.
Alors on a entendu dans le reportage depuis Toulouse, Mélanie Gomez, que ce sont des étudiants, de jeunes adultes qui se retrouvent à l'hôpital. Mais est-ce que ces défauts de vaccination font aussi des victimes chez les plus jeunes?
Oui, hein, chaque année il y a des enfants, des bébés même, qui meurent ou se retrouvent en soins intensifs parce qu'ils ne sont pas vaccinés. D'ailleurs, une étude française récente prouve l'étendue des dégâts en pédiatrie dans le Grand Ouest. Ces chercheurs ont regardé sur une période de 5 ans tous les cas de bébés et d'enfants de moins de 16 ans hospitalisés ou décédés en réanimation pour une infection bactérienne grave. Résultat, dans la majorité des cas, ces enfants souvent non vaccinés sont entrés à l'hôpital pour un méningocoque C ou un pneumocoque, deux bactéries qui provoquent des méningites contre lesquelles on a pourtant des vaccins efficaces.
La rougeole, en même temps, Mélanie, on ne peut pas vacciner un bébé avant qu'il n'ait un an.
Oui, mais leurs parents, leurs frères et sœurs, eux, peuvent et doivent se faire vacciner pour ne pas contaminer ces petits bébés. Et ces derniers temps, cette irresponsabilité familiale inquiète particulièrement sur la coqueluche, précise le professeur Robert Cohen, pédiatre à l'hôpital intercommunal de Créteil.
On a des cas de coqueluche qui sont souvent des formes graves, qui surviennent dans les 3 premiers mois de vie avant que les enfants aient été vaccinés. Et la raison essentielle, c'est justement que l'entourage n'est pas assez vacciné. Ce sont des enfants qui sont dans un état sévère, qui justifie qu'ils aient de l'oxygène, qu'ils soient ventilés et qu'ils sont hospitalisés sur des périodes relativement longues.
Et pour les parents qui nous écoutent ce matin, Mélanie Gomez, comment fait-on pour savoir si on est à jour dans ces vaccins?
Eh bien, normalement, à 25 ans, tous les jeunes adultes sont censés faire ce rappel pour la coqueluche. Et si vous ne souvenez pas si vous êtes à jour de vos vaccins, allez consulter. Le médecin saura mieux lire que vous les rappels dans le carnet de santé.
La vaccination, c'est un enjeu de santé publique qui nous concerne tous. Merci Mélanie Gomez pour ce dossier signé Europe 1. Va plus loin.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il arrive, il est déjà en place dans le studio. Dans quelques instants, Anis Mbida, on va parler de voitures électriques pour l'innovation du jour. Et le problème, c'est qu'elles ne font pas de bruit. Oui, ça peut être un problème dans certains cas. On vous raconte tout dans un instant. Bon réveil.
Avec Nikos Aliagas sur Europe 1, il est 7h24. Il est 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour avec Anis Mbida, Nikos.
Et il faut bien le dire, certains apprécient les voitures électriques non seulement parce qu'elles polluent très peu en fait, mais aussi pour leur silence. Et à partir du 1er juillet prochain, elles seront obligées de faire du bruit. Pourquoi?
Parce que une voiture totalement silencieuse, on n'entend pas arriver, on n'entend pas reculer, dangereux. Ce qui peut provoquer des accidents. On pense évidemment à ceux qui ont la tête plongée dans leur smartphone, mais il y a aussi les malvoyants pour qui c'est un réel problème. Donc à partir du 1er juillet, tout véhicule électrique ou hybride qui veut être autorisé à rouler dans l'Union européenne devra ajouter des petits haut-parleurs pour émettre un bruit d'avertissement quand il roule à moins de 20 km/h. Et ça concerne que les véhicules de 4 roues et plus, donc ni les scooters, ni les trottinettes électriques, qui pourront toujours nous surprendre quand elles arrivent.
On les met où les haut-parleurs, je comprends pas.
Bah, sous la voiture, ou derrière, voiture. Ou au niveau du pot d'échappement.
Elles doivent faire un bruit particulier?
Non, et c'est peut-être le principal problème, parce que les constructeurs ont embauché des musiciens pour composer, comme ils disent, la personnalité de leur voiture, et ça donne soit des sons très proches d'un moteur, ça c'est chez Audi par exemple,
ouais.
Ou sinon des bruits de salon de massage zen chez Renault. Ou alors carrément
c'est
moche, de soucoupe volante chez Jaguar.
Ah ouais. C'est particulier.
Et en plus, comme ça sera exactement comme les sonneries de téléphone portable, donc on pourra personnaliser le son de sa voiture. Ce qu'on entend là, c'est une des options du futur combi Volkswagen électrique.
Attendez, je m'arrête, je vais ramasser le trottin.
Et oui, c'est un bruit de calèche. Donc je vous laisse imaginer la cacophonie qu'on risque d'avoir dans les centres-villes.
C'est surréaliste quand même cette histoire. On peut mettre, mais on peut choisir son propre son.
On peut choisir
son
bruit, oui. Et puis beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des bruits de Ferrari, des bruits d'Harley Davidson,
ouais, etc. C'est pour montrer que voilà. Plus tu as une grosse voiture, plus tu es un homme. Mais pas, moi,
et
je
plus mets, on fait de bruit.
Moi, je mettrais du rock'n'roll. Moi, je mettrais un petit solo de Jimi Hendrix, par exemple.
Moi, je préfère le silence.
Ouais, c'est dangereux. Merci Anicène Bidard.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans deux minutes, le journal de François Geffry, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Vous mettriez quoi, vous, mon cher Laurent Cabrol, comme musique si vous deviez ajouter un son sur votre voiture électrique?
C'est sûr, oui.
C'est David Vincent, les envahisseurs. Là, hein.
Non, mais si vous êtes dans l'Est aujourd'hui, c'est inutile de mettre un bruit de pluie parce qu'il est déjà là. Hein.
Ah, ben voilà.
En Alsace, en Franche-Comté, en région Rhône-Alpes, des pluies sont fortes. Elles sont permanentes depuis maintenant presque 24 heures. Et c'est vraiment pénible. Donc de la pluie, des orages, un temps très perturbé, pas folichon, dans toutes ces régions de l'Est. Ce type de temps va gagner la Lorraine, la Bourgogne, l'Auvergne, la Champagne et les Ardennes. Et puis si vous habitez la Bretagne, la Normandie, la Picardie, le Nord, la région parisienne, Pays de la Loire, c'est un régime d'averses qui vous est réservé. Oh, sans trop de répit, ces averses, faut bien le dire. Il y en aura pas mal. Hein. En Poitou-Charentes, Gironde, Limousin et Centre, des nuages gagnants, avec quelques ondées. Alors là, j'ai fait une petite différence, c'est-à-dire que les ondées sont plus discrètes qu'ailleurs. En Méditerranée, du soleil avec du vent. Tramontane essentiellement.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, température, attendez, juste un petit mot.
Oui, 17, bien sûr.
17 à 26 degrés température. Hein, 17 à 26. 19 à Paris et 20 à Lyon.
Voilà. Ça commence frais, mais on peut être dans des zones plutôt clémentes au centre de la France. Merci beaucoup.
À suivre, Nikos.
Raphaël Nadal, évidemment, et en exclusivité ce matin avec Corinne Boulou, on était à Roland-Garros. On l'a traqué et on a eu Raphaël Nadal, le grand vainqueur du tournoi. 12 Roland-Garros remportés. On vous dit tout à 7h45.
Nous sommes le lundi 10 juin, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
C'est vous ce matin, François Geffrier, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Vous vous êtes posé la question avant le week-end. Au fait, travaille-t-on ce lundi, lundi de Pentecôte? Ça fait 15 ans que ça dure, on est un peu perdu. Une chose est sûre, tout le monde contribue à l'aide aux personnes âgées dépendantes. Olivier Samin a travaillé la question.
À l'origine, tout le monde devait travailler ce jour-là, mais la règle n'a tenu que 4 ans. Très vite, sous la pression des professionnels du tourisme, le législateur a laissé aux entreprises la liberté d'organiser comme elles l'entendent la mise en œuvre de cette journée de solidarité, le lundi de Pentecôte ou un autre jour dans l'année. À tel point qu'aujourd'hui, plus personne ne sait vraiment comment ça se passe. Laurent travaille dans une agence de voyage. La seule chose qu'il a comprise, c'est qu'il ne va pas travailler aujourd'hui.
Non, je ne travaille pas le lundi de Pentecôte. C'est un jour de solidarité, mais nous ne travaillons pas. C'est un accord de la société. Je ne suis pas au courant du tout comment ça fonctionne.
Chaque entreprise a défini sa propre règle. Mais parfois, à l'intérieur même d'une entreprise, la pratique n'est pas uniforme. Anya est ingénieure en informatique. Elle travaille en mission chez des clients. Elle doit s'adapter à la règle choisie par l'entreprise où elle intervient.
C'est un jour qui n'est pas férié depuis de nombreuses années dans mon entreprise. Mais là, on est obligé de poser un RTT employeur pour ne pas être présent parce qu'on est chez un client qui, lui, la journée est fériée chez lui.
La seule chose finalement qui ne bouge pas, c'est la journée de salaire reversée tous les ans à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette année, elle devrait rapporter 2,9 milliards d'euros.
Olivier Samin avec Maya Sido pour Europe 1. Un enfant tué et un autre grièvement blessé par un chauffard qui voulait éviter un contrôle de gendarmerie. Ça s'est passé à Quévennes, près de Lorient, hier après-midi. Le conducteur et sa passagère ont pris la fuite.
En politique, la droite en plein doute. 72 élus locaux issus des Républicains ont affiché ce week-end leur soutien ouvert au gouvernement et au président Macron.
Et sur le terrain, dans les fiefs de la droite, la tentation Macron est bien réelle, comme à La Baule en Loire-Atlantique, où s'est rendu Pierre-Baptiste Vanzini.
Franck Louvrier, qui veut devenir maire de La Baule, se place très clairement dans la mouvance de ces maires qui veulent se dégager des Républicains. Pour autant, cet ancien très proche de Nicolas Sarkozy refuse l'étiquette du déserteur.
J'ai jamais été depuis l'âge de 18 ans, ça ne changera pas. Par contre, je suis quelqu'un de très ouvert.
Une ouverture qui peut être également synonyme d'explosion, il l'assume.
Le fonctionnement aujourd'hui des formations politiques n'est pas en cohérence avec l'état d'esprit des Français. Donc il faut bien sûr un Big Bang, et ce Big Bang, il doit avoir lieu dans un esprit de coalition. Sur l'essentiel, certaines formations politiques puissent s'entendre et faire avancer le pays. Ne vous égarez pas dans des écuries politiciennes.
Et les électeurs baulois, eux, sont plutôt partagés sur la question.
Vous croyez que les électeurs vont aller vers eux, sachant qu'ils quittent les Républicains et pourront aller vers Macron? Non, non.
Moi, je préfère les voir partir vers République En Marche que le Front National, par exemple.
C'est pas l'étiquette qui compte, c'est la personnalité, le programme. Voilà, c'est ce qui compte. Hein.
En tout cas, le temps où la ville accueillait en grande pompe les universités de la droite est peut-être en train de s'éloigner. La Baule, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe 1.
Le constructeur Renault était déjà ébranlé par d'énièmes révélations sur Carlos Ghosn et par la rupture de ses fiançailles avec Fiat Chrysler. Nouvelle embardée ce week-end avec Bruno Le Maire, selon qui l'État pourrait réduire sa participation au capital, histoire de rééquilibrer les pouvoirs dans l'alliance avec Nissan. Mais cette annonce intrigue Mariette Rie, déléguée centrale force ouvrière chez Renault.
Les inquiétudes peuvent être tout simplement légitimes. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire de Renault, l'État a toujours été l'actionnaire de référence. Et comme tout changement, on se pose toujours la question de savoir comment les transformations vont se faire pour chacun d'entre nous. Si l'État devait effectivement baisser, ce serait vraiment assez surprenant, je dirais. L'État apporte une garantie historique, une stabilité. Alors, attendez, on parle quand même d'équilibre capitalistique, d'actionnaires. C'est du financier. L'Alliance, elle ne s'est pas construite sur des équilibres financiers. Le projet était tout simplement un projet d'efficacité au service de l'économie réelle, mais pas de l'économie financière. En tous les cas, pour nous, c'est ça qui est important, c'est de savoir les raisons pour lesquelles l'État souhaite baisser au capital de Renault. Qu'est-ce qu'on va en faire derrière ?
Mariette Rie de Force Ouvrière chez Renault.
Il y a 2 ans, il arrivait comme un dieu. Aujourd'hui, c'est en train de devenir peut-être un problème pour le Paris Saint-Germain.
Le joueur Neymar, qu'une femme accuse de l'avoir violé, pourrait être lâché par ses sponsors, notamment le principal Nike. Les détails avec Simon Rubin.
La marque est très inquiète et va suivre l'affaire de près. Voilà ce qu'annonce Nike à propos du cas Neymar et de l'accusation de viol qui le vise au Brésil. Mastercard, autre sponsor du joueur, a carrément renoncé à une campagne publicitaire avec lui. À travers ces 2 annonces, on voit bien que Neymar est en train de perdre en crédibilité, que son image est ternie. Des détails au regard des graves accusations qui pèsent sur lui, bien sûr, mais qui en disent long sur la déliquescence de l'image du joueur. Et puis, Neymar s'est en plus blessé, sans parler de son soutien inconditionnel à Bolsonaro qui divise énormément. Pas étonnant que les sponsors soient gênés. Dans ce contexte, les rumeurs sont reparties de plus belle en Espagne où l'on assure que Neymar réfléchirait de nouveau à son avenir au PSG. Un peu là du manque d'égard du public français, ayant aussi besoin de changer d'air. Neymar, la star que tout le monde désirait encore il y a 1 an, est en train de devenir un boulet bien encombrant.
Simon Rubin, on rappelle en sport que Rafael Nadal a remporté hier son 12e titre de Roland-Garros et qu'il est votre invité, Nikos, à 7h45.
Merci.
L'industrie du jeu vidéo va-t-elle réussir la même révolution que celle de la musique ? Les CD ont disparu, et bien dans le jeu ce sont les consoles et les ordinateurs que l'on va pouvoir oublier grâce au cloud gaming. Vous allez nous expliquer ce que c'est, Clément Le Saffre. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Los Angeles, au salon E3 des jeux vidéo.
Eh bien pour faire simple, le cloud gaming c'est le jeu vidéo dématérialisé. Vous n'achetez plus de console, à la place vous prenez un abonnement à un service. Ensuite, eh bien ce sont les serveurs surpuissants de Google ou de Microsoft qui s'occupent de tout et qui permettent de jouer à distance sur n'importe quel écran, ordinateur, télévision et même téléphone. Alors le cloud gaming devrait améliorer l'expérience pour les joueurs, puisque ce sont les serveurs qui font le travail, et bien ça assure une qualité maximale pour les graphismes et la fluidité des jeux. Mais ce n'est pas tout, car le cloud gaming permettra aussi de jouer partout, simplement en se connectant à son compte sur un écran, comme l'explique Stéphanie Perrotti, responsable des services en ligne chez l'éditeur français Ubisoft.
Même si vous avez aujourd'hui une console, peut-être que de temps en temps vous aimeriez avoir accès à ce même jeu sur d'autres devices parce que vous n'êtes pas à la maison, vous n'êtes pas avec votre console. Et donc l'intérêt c'est également de pouvoir avoir accès à son catalogue de jeux n'importe où, n'importe quand.
Clairement, le cloud gaming c'est l'avenir du jeu vidéo, tout le monde s'y met et c'est Google qui a tiré le premier. Le géant américain va lancer en novembre Stadia, son service de jeu sur abonnement à 10€ par mois. Et dans la foulée, Microsoft lancera xCloud, version dématérialisée de sa Xbox. Et ce n'est que le début d'une nouvelle ère. Los Angeles, Clément Le Saffre, Europe 1.
Et c'est très mal ce qu'on est en train de faire, car après avoir parlé des jeux vidéo, place aux révisions du bac. La philo, c'est dans une semaine. C'est vicieux, direction la médiathèque Malraux de Strasbourg. Mais attention, vous le savez, dans une médiathèque, on doit chuchoter.
Chez moi, il y a la télévision, il y a Internet, et on peut tout lâcher et aller voir peut-être un film, etc. Alors qu'à la médiathèque, on se motive et on lâche rien. Si on a les bonnes copines, normalement, ça devrait pas déconcentrer.
Ok, ouais, ouais. En fait, il faut faire une factorisation.
Par exemple, lorsque je lis un chapitre, je comprends pas, je peux demander à mes copines ce que j'ai pas compris, on peut s'entraider et...
Qu'est-ce que tu fais là maintenant ?
J'apprends les intégrales, les suites, les primitives.
Moi, je comprends rien à ce qu'il y a écrit sur ta feuille.
Moi non plus, je comprends pas trop, mais on va essayer de comprendre avant le bac.
Vous êtes des copines du foot, c'est ça ?
C'est ça.
Et la Coupe du Monde qui commence ?
Dans quelques semaines, on pourra regarder les matchs, mais pour l'instant, on reste fixé sur l'objectif bac.
C'était le reportage d'Arthur Elmbaché. C'était le journal de 7h30 avec vous, François Geffrier.
Merci.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre les amis, Jean-Michel Apathy.
Oui, bonjour Nikos, on reparle de la PMA, la procréation médicale assistée, parce que le gouvernement
a envie d'enterrer cette réforme, mais il hésite à l'enterrer. Et voilà, on hésite. Réponse mercredi avec le Premier ministre lors du discours de politique générale.
On écoutera votre analyse dans quelques instants. 7h43, Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
On parle de quoi ?
Eh bien, nous, on va parler des centres des impôts, parce que figurez-vous que la carte aujourd'hui de France va bientôt évoluer.
Très bien. À suivre aussi à 7h45, Raphaël Nadal, en exclusivité ce matin. Elle va nous rejoindre, Corinne Boulou, celle qui a suivi pendant 15 jours cette compétition, pour qu'on vous raconte comment ça s'est passé en coulisses. Excellent réveil à tous. Merci d'écouter Europe 1.
Il est 7h38. Il est 7h41, Nico Saliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Et on reparle ce matin de la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Et hier, Gilles Legendre, le patron des députés En Marche à l'Assemblée nationale, a bien assuré que ce texte serait voté à la fin du quinquennat, mais il n'a pas dit quand, Jean-Michel
Apathy. Non, alors, il n'a pas dit quand, mais s'il a bien assuré que ça se ferait, c'est quand même qu'il y a un petit doute. Cette réforme de la PMA, une promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, fait très peur au gouvernement. Pourquoi ? Parce que c'est une réforme qui divise encore dans la société, qui mobiliserait contre elle une partie de la droite, une partie des milieux catholiques. Ça peut réunir des centaines de millions de personnes, de milliers de personnes lors de plusieurs manifestations. On l'a vu lors de la contestation du mariage pour tous en 2013. Et comme le pouvoir sort difficilement de la crise des Gilets jaunes, il hésite à se réengager dans un débat de société sur la PMA. Mercredi, dans deux jours, Édouard Philippe, le Premier ministre, doit faire un nouveau, pas trop à quoi ça sert, mais discours de politique générale. Et notamment, dans ce discours de politique générale, il devrait donner le calendrier des réformes à venir. Alors, il y en a d'importantes, assurance chômage, retraite, la fonction publique, et donc les lois bioéthiques qui contiennent la PMA. Et ce qu'on attend du Premier ministre, c'est qu'il dise la chose suivante, qui est assez simple. La PMA, vous l'examinerez, vous les députés, avant les municipales ou après les municipales? Alors avant les municipales, c'est un texte, si c'était le cas, le choix du Premier ministre, c'est un texte qui serait analysé par les députés, décortiqué par les députés, durant l'automne. C'est-à-dire que ça percuterait de plein fouet la campagne des municipales. Mmh. Et ça pourrait peser sur les résultats des municipales. Donc il y a beaucoup de candidats aux municipales qui disent « Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour le faire ?» Donc la sagesse, ce serait de le faire après. Mais après, on ne sait plus quand c'est. Parce qu'après, d'une part, il peut y avoir beaucoup de textes qui vont s'empiler. Le calendrier parlementaire est toujours très difficile à gérer. On va rentrer dans la dernière partie du quinquennat. À partir de 2021, vous ne faites plus grand-chose dans un quinquennat. Et en tout cas, vous ne faites pas la PMA à partir de 2021. Et puis, voilà, il peut y avoir un mauvais climat qui fait que là, le gouvernement n'y aille pas. Donc du coup, si le texte était annoncé comme analysé après les municipales, il pourrait tomber à la trappe et là, susciter beaucoup de déceptions parmi les soutiens du président, les courants féministes, Marlène Schiappa, enfin, ce serait aussi une source de désordre et d'ennui. C'est pour ça que Gilles Legendre, hier, à la surprise générale, a dit « Oh mais, on le fera hein. !» C'est parce que vraiment, s'il y a quelque chose dont le gouvernement n'est pas sûr, c'est justement qu'il le fera.
Histoire de timing aussi. Timing, oui. Merci beaucoup Jean-Michel Apathy. Anne-Laure Jumet, c'est vous ce matin.
Oui.
La carte de France des centres des impôts va évoluer, c'est-à-dire que le gouvernement prépare une réforme d'ampleur à l'horizon 2022.
Oui, alors ça fait un an que ce projet est à l'étude, on vous en avait d'ailleurs déjà parlé sur Europe 1. L'objectif en fait c'est de réduire le nombre de trésoreries. Aujourd'hui il y a 3600 points de contact, ce qui place les centres des impôts juste après les écoles en termes de présence sur le territoire. Mais pour Bercy, il faut revoir cette carte car les besoins évoluent avec la déclaration de revenus obligatoire sur Internet, la suppression prochaine de la taxe d'habitation ou encore la fin annoncée des paiements en cash dans les trésoreries. C'est difficile de continuer à faire comme avant.
En fait, ça semble un peu contradictoire avec les conclusions du grand débat. Hein. C'était de mettre davantage de services publics dans les territoires, mais ce n'est pas le cas.
Oui, ça semble effectivement à contre-courant. Mais pour le gouvernement, ce qui va être fait répond au contraire aux demandes exprimées lors du grand débat. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, assure qu'il y aura 30% d'accueil de proximité en plus d'ici 2022, ce qui est selon lui un effort sans précédent. Les services des impôts seront en fait présents dans 700 communes de plus qu'aujourd'hui, notamment dans les villes de moins de 3500 habitants. Mais quand il parle d'accueil de proximité, il ne parle plus de trésorerie au sens strict. C'est pour ça que ça n'est pas contradictoire avec la volonté de restructurer le réseau.
En fait, on est dans le cadre des annonces faites par le président de la République en avril.
Oui, on parle en fait là des maisons France Service, vous vous en souvenez peut-être, pour que tous les services publics soient accessibles à moins de 30 minutes en voiture. C'est ce qu'avait annoncé le président de la République effectivement lors de sa conférence de presse. Dans ces lieux, il n'y aura pas que des conseils sur les impôts et donc que des agents des finances publiques. On pourra aussi être aidé pour les démarches liées aux allocations familiales, à Pôle emploi, à la sécurité sociale. Ce qui fait dire aux syndicats des finances publiques qu'on assiste à une liquidation du réseau des impôts. avec une réforme qui, selon leurs calculs, devrait aboutir à la suppression de la moitié des trésoreries. Donc si le gouvernement a prévu 4 mois de concertation, ça s'annonce compliqué. La CGT appelle déjà à la grève pour obtenir le retrait de ce plan.
Alors Jumet, pour le Zoom Echo.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, Raphaël Nadal, invité de la matinale, juste après sa victoire hier à Roland-Garros, 12e Roland-Garros qu'il a remporté d'ailleurs, rencontre exclusive. À tout de suite.
Un très bon réveil à tous, il est 7h46. Il est 7h48, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Une marche silencieuse à 10h30 ce matin au Sable d'Olonne pour rendre hommage aux 3 sauveteurs qui ont péri en mer vendredi lors de la tempête Miguel. Ils voulaient porter secours à un pêcheur qui n'a toujours pas été retrouvé. Un enfant tué, un autre en urgence absolue. Ils ont été fauchés par un automobiliste hier après-midi près de Lorient. Celui-ci a pris la fuite, il voulait éviter un contrôle de gendarmerie. Malgré une foule gigantesque qui a défilé hier, le gouvernement de Hong Kong maintient son projet de loi permettant les extraditions vers la Chine. Les organisateurs du rassemblement de dimanche évoquent le chiffre d'1 million de manifestants dans cette enclave qui compte 8 millions d'habitants.
Europe 1.
12e sacre pour Rafael Nadal à Roland-Garros. L'Espagnol s'est imposé hier face à l'Autrichien Dominic Thiem après 3 heures de jeu. Nikos, vous avez interviewé l'Espagnol hier soir en exclusivité pour Europe 1. Europe 1 qui était la radio officielle de Roland-Garros.
Et je n'étais pas seul, j'étais avec les équipes d'Europe 1, avec vous, ma chère amie. Oui. Comment ça va?
Bonjour Nikos.
Ça va Corinne?
Oui, ça va bien.
Corinne Boulot, que vous avez suivi quotidiennement à 8h35 et tout au long de l'après-midi sur l'antenne d'Europe 1, puisque nous sommes partenaires d'Europe 1.
De la radio, de Roland-Garros.
De Roland-Garros, pardonnez-moi. Donc c'était un peu chez vous.
Un petit peu, pendant 15 jours, 3 semaines, et ce fut une très très belle édition qui s'est terminée en apothéose avec ce 12e sacre. C'est juste phénoménal, hein, Nikos, faut se rendre compte de ce que ça représente. Et derrière, eh bien, ça demande un peu de patience avant d'avoir le vainqueur.
Une interview.
Et oui, parce
qu'en fait, il est très sollicité.
Exactement. Puis vous avez un protocole à respecter. Hein. Il y a cette remise des prix. Il a reçu quand même la Coupe des Mousquetaires des mains d'une légende, Rod Laver, d'une légende à une autre légende, parce que ce sont deux légendes du tennis. Après, vous avez beaucoup de photos à faire. Et puis, vous avez le contrôle antidopage qui a pris un petit peu plus de temps que prévu. Et vous l'avez bien vu, la conférence de presse ensuite avec nos confrères du monde entier, hein, la salle est
en
pleine.
En anglais et ensuite pour les Espagnols.
Exactement.
Il fait 2 confs de presse en
Exactement.
Fait, dans le même endroit.
Et c'est ensuite à l'issue de cette conférence de presse
que nous l'avons
alpagué
dans le couloir en fait. Pour
que
avoir...
vous avez eu la chance de parler avec
lui. On était ensemble, c'est grâce à vous, on ne va pas non plus. Et puis pour avoir juste quelques minutes, quelques questions où tout est chronométré, on ne peut pas les approcher. Juste pour avoir l'image, c'est comme si après la finale de la Coupe du Monde de football, vous voulez avoir un entretien avec Ronaldo.
Ou
c'est,
par exemple,
c'est
ou Zidane
difficile.
À l'époque.
Voilà. Mais il était sympathique, il était cool, on a échangé et je l'ai même photographié. Voici ce que ça donne. Raphaël Nadal sur Europe 1 ce matin. Merci Corinne. Bonjour Raphaël Nadal.
Bonjour.
Enhorabuena por la victoria, bravo pour votre victoire.
Merci beaucoup.
12e ici à Roland-Garros. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Essayez de me dire en quelques mots, quand vous vous êtes allongé à la fin, au moment de la libération, hein, où vous êtes là, vous regardez le ciel, quelles sont les émotions qui passent, quelles sont les images qui passent dans votre tête à ce moment-là, Raphaël Nadal?
À
ce moment-là, lorsque je m'écroule, en fait, je ne réfléchis à rien. C'est la adrénaline qui descend d'un coup. Et puis, au fur et à mesure où les minutes se passent, toute une série d'émotions qui passent. Ce sont des moments où on essaye d'en profiter un maximum, sachant qu'il y a toute la famille, tout mon staff, mon équipe. Et en effet, sur le court le plus important de toute ma carrière, le fait de revenir ici, c'est quelque chose d'incroyable. Je suis vraiment très content et je remercie également le public qui m'a soutenu.
La première fois que vous avez gagné Roland-Garros, vous aviez 19 ans. Aujourd'hui, vous en avez 33. Qui joue mieux, celui de 19 ans ou celui de 33?
Je pense
que celui qui a 33 ans, mais celui de 19 ans n'était pas mal. Hein. Il avait déjà physiquement, il était bien supérieur à celui de 33 ans.
Alors, il y a effectivement le physique, il y a l'expérience et il y a le mental. Vous arrivez toujours à cacher, on ne voit pas, hein, vous êtes assez poker face quand vous jouez, notamment aujourd'hui avec Dominic Thiem. À quel moment vous vous énervez pour en finir? C'est quand, au troisième set, vous tapez 6-1?
Enfadarme, no me enfado yo
non,
casi
je
nunca,
ne me fâche
no,
pas, je ne me fâche pratiquement jamais.
Évidemment,
parfois,
no juego lo
il
bien
est vrai que je ne joue pas au
bueno,
niveau où je souhaiterais, mais j'accepte les choses telles
bueno
qu'elles viennent. Je ne suis pas aussi bon pour penser que je vais jouer toujours très très bien. Je pense qu'il y a des fois où je joue bien, moyen ou très bien. Je ne me fâche pas, je sais que je joue contre les meilleurs, un des meilleurs joueurs au monde, donc il fallait que je concentre. Le premier set, j'étais très bien. Le deuxième, j'étais un tout petit peu plus désordonnée. Et lors du troisième et quatrième set, il fallait que je retrouve la sensation que j'avais les rênes en main et que j'allais les remporter.
Sensation, c'est un mot important. Vous avez encore les mêmes sensations après 18 victoires au Grand Chelem ?
Bueno, para mí siempre es una gran emoción.
Pour moi, c'est toujours des émotions très importantes. Et au fur et à mesure des années, nous savons que les occasions ne sont pas tout le temps les mêmes. Il y en aura de moins en moins. Mais au-delà de tout cela, l'idée, c'est d'avoir des bonnes sensations, d'en profiter, de prendre plaisir sur le court et le fait d'avoir remporté 12 trophées de Roland-Garros.
Maintenant, c'est vacances ou vous allez rester quelques jours à Paris avant de Wimbledon?
Non,
je rentre chez moi,
à la maison,
à Mallorca.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Et voyez la casa. À suivre, marche blanche ce matin en hommage aux trois sauveteurs de la, des pêcheurs. Ils essayaient de sauver un pêcheur et puis ils ont perdu la vie. Nous y serons en direct des Sables d'Olonne dès le début du journal de 8h. Et puis dans une minute, un bébé qui perd tous ses repères à cause de l'enceinte connectée du salon. C'est Jean-Philippe Ballas, à tout de suite.
Et si vous avez aimé Roland-Garros, hein, cette année la compétition vous a fait vibrer, dites-le-nous sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Europe 1. Il est 7h53. Il est 7h56, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Quand on ne sait plus trop comment on s'appelle, on écoute Jean-Philippe Ballas.
Avec une vidéo, les amis, qui m'a plongé dans un abîme de perplexité. On connaît tous les enceintes connectées, censées nous simplifier la vie. Il y en a une notamment qu'on appelle Alexa. Alexa, dis-moi quel temps il fait. Alexa, fais-moi écouter Nikos. Alexa, mets-moi ma chanson préférée, etc., etc. Le problème, c'est quand il y a un bébé à la maison et que ce bébé finit par penser qu'il s'appelle lui-même Alexa. Vous allez comprendre, une jeune maman américaine a mis en ligne une vidéo assez édifiante. Gros plan sur sa fillette, elle a 7 mois, elle est en train de jouer dans le salon, elle s'appelle Caroline, Caroline en anglais. Sa maman l'appelle, pas de réaction.
Caroline.
Une fois, deux fois.
Caroline.
Et soudain.
Alexa.
Alexa. Quand la maman dit Alexa, Caroline lève la tête de son livre, interloquée, comme si on s'adressait à elle. Alors ça fait beaucoup rire la maman, c'est vrai que la première fois, j'avoue que ça fait sourire. Mais c'est quand même assez flippant. Et pour les internautes, c'est QFD. C'est-à-dire que les jeunes parents parlent davantage à leur enceinte connectée qu'à leur propre enfant, à un âge précisément vers 7-8 mois où un bébé commence à réagir à son prénom. Bon, il y a aussi l'intonation de la voix, bien sûr. Rien d'irréversible, évidemment. Mais vous savez quoi ? Si jamais c'est férié chez vous aujourd'hui, bah profitez-en pour déconnecter un peu en ne gardant que les prénoms vraiment essentiels.
Beyoncé, oui.
Merci Siri. Merci Jean-Philippe Ballas. Eh bien, à suivre beaucoup de choses, évidemment, mais d'abord, un point sur la météo.
Et oui, c'est avec notre cher Laurent Cabrol.
Nous voici donc avec une journée qui s'annonce pas folichonne du tout, avec une semaine qui n'est pas folichonne non plus, avec peut-être une journée que nous allons dégager, une journée un peu plus généreuse en soleil, jeudi par exemple. Mercredi après-midi et jeudi, ça devrait être quand même des journées un peu plus sympathiques. Mais franchement, c'est pas agréable et nous sommes dans une dominante d'un temps agité et d'un temps orageux et bien souvent d'un temps nuageux, bien sûr, en permanence. Voilà pour cette journée. Ceux qui sont les moins gâtés sont l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, tous ceux d'entre vous qui habitent ces contrées. Si vous habitez la Lorraine, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la pluie qui n'est pas encore très présente le sera beaucoup plus. Paris, ce sera bon, vous voyez ce que je veux dire. Moyen, avec pas mal de nuages, Poitou-Charentes, Limousin-Centre, des nuages aussi qui seront majoritaires. Les températures aujourd'hui, 15 degrés à Caen, 16 à Lorient, c'est frais, hein, 17 à Nantes, 18 à Clermont, 19 à Dijon, Toulouse, 19 à Paris, 20 à Lyon, 21 à Nancy, j'en connais qui vont allumer le chauffage, 26 à Nice, 28 à Nîmes.
Dingue, ça.
Et 29
en plein mois de juin, on n'allume pas le chauffage. Mais qu'est-ce qui se passe ?
Non, mais quand on a 15 degrés à Caen, on a froid.
Mais oui, mais même à Paris, hein, cette nuit, il faisait frais. Merci beaucoup, allez. Laurent Cabrol.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 en ce lundi 10 juin. Merci pour votre confiance. Il est 8h. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nico Saliakas.
Bonjour Sébastien Krebs.
Bonjour Nicos, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin.
L'hommage de la Vendée à ses héros, les Sables d'Olonne unis dans le recueillement Marche Blanche ce matin à la mémoire des trois sauveteurs emportés par la tempête vendredi. Nous irons sur place dans un instant. La droite se déchire, lui prépare l'offensive post-européenne du gouvernement. Édouard Philippe attendu mercredi au Parlement, discours de politique générale. Les informations d'Europe 1 dans ce journal sur ce que dira le Premier ministre. Et puis Roland Garros. À la fin, c'est toujours Nadal qui gagne. 12 finales, 12 victoires. Lui-même trouve cela incroyable, il vous le disait, Nikos. Et pourtant, il revient de loin. On en parle avec Corinne Boulou dans un instant.
8h12, manifestation monstre à Hong Kong. On y revient avec Vincent Herouet. 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
Europe 1.
Il s'appelait Dimitri Moulic, Alain Guibert, Yann Chagnolo. Ils risquaient leur vie bénévolement pour porter secours en mer. Bientôt, ces trois sauveteurs emportés par la tempête Miguel vendredi seront décorés de la Légion d'honneur à titre posthume. Ce matin, leur ville, les Sables d'Olonne, en Vendée, leur rend hommage. Marche blanche et silencieuse à 10h30. Bonjour François Coulon.
Bonjour à tous.
Vous êtes sur place en direct. C'est toute la ville qui va se figer dans l'émotion tout à l'heure.
Ouais, il pourrait être plusieurs milliers à se rassembler place de Strasbourg pour entamer une longue marche silencieuse en direction des lieux du drame, la plage de Tanchet où seront déposées des fleurs. Quatre jours après les événements, eh bien, l'émotion est toujours aussi vive ici. Michel et Roger participeront à la marche blanche.
On est malheureux. Tout le monde ici connaît quelqu'un qui a eu de la famille, qui était sur les bateaux des sauveteurs. C'est difficile de regarder la mer et de se dire que ces gens, ils ont donné leur vie.
C'est sur la même longueur d'onde qu'un colonel Beltram ou que les deux commandos marines qui sont morts pour sauver les deux Français en Afrique de l'Ouest. C'est pareil, ils ne se sont pas posés de questions. Quelqu'un en détresse, il fallait y aller, ils y sont allés. Les familles, je les soutiendrai par la pensée, par la prière, par tout ce que l'on peut faire pour les soutenir parce qu'elles vont en avoir terriblement besoin.
Alors, ces familles de victimes ont bien sûr un énorme besoin de soutien moral, mais aussi matériel, comme le souligne le maire des Sables d'Olonne et la station SNSM locale. Tous deux lancent un appel à la solidarité. On pense en particulier à la famille de Dimitri Moulic, le plus jeune des trois disparus. Âgé de 28 ans, il était père de deux enfants. Dans le port de pêche, les pavillons de tous les bateaux sont en berne. Une banderole a été accrochée en hommage aux trois disparus.
François Coulon en direct des Sables d'Olonne pour Europe 1. Tout a commencé par un banal contrôle de gendarmerie. Nous vous donnions cette information dès hier soir sur Europe 1. Ces deux enfants de 7 et 10 ans fauchés à Lorient en plein après-midi par un chauffard qui tentait d'échapper aux forces de l'ordre. Bonjour Salomé Legrand.
Bonjour.
Il y avait deux personnes à bord de la voiture. Elles sont toujours en fuite et recherchées ce matin.
Et oui, elles ont été identifiées. D'après nos informations, il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui circulait à bord d'un véhicule qui n'était pas signalé volé. Par ailleurs, ce conducteur et sa passagère sont tous deux originaires de la région lorientaise. Tout a commencé hier, peu avant 17h30, lorsque le jeune homme a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle routier classique à Kéven. C'est à 7 km de Lorient. Il a alors été pris en charge à distance par les motards de la gendarmerie jusqu'à l'entrée de l'agglomération où la poursuite trop dangereuse est arrêtée. Mais la voiture, qui roule à très vive allure, s'engage dans une voie de bus, percute un autre véhicule en sortie de rond-point sans faire de blessés avant de faucher ses deux enfants donc sur le trottoir. Le premier, âgé de 10 ans, n'a pas survécu à ses blessures. Le second a été hospitalisé dans un état grave. Tard hier soir, son pronostic vital était toujours engagé.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
Ce sera l'événement politique de la semaine. Édouard Philippe attendu devant l'Assemblée nationale.
Le Premier ministre a passé le week-end à mettre la dernière main à ce discours de politique générale qui doit lancer la deuxième partie du quinquennat. Quelle réforme, quel calendrier ? Édouard Philippe est attendu sur tous les grands dossiers, impôts, retraite, bioéthique, dépendance. Ce qui est sûr, Jean-Rémy Baudot, c'est que les prochains mois seront chargés.
Oui, on rentre de plein pied dans le fameux acte 2 promis par Emmanuel Macron. Le Premier ministre va détailler une partie de sa feuille de route pour les prochains mois. Le mot sur lequel les membres du gouvernement insistent, c'est écologie. Nous allons montrer que la transition écologique devient aussi importante que l'économie et le social, promet un conseiller à Matignon, bien conscient que beaucoup de Français doutent encore de la sincérité du pouvoir en la matière. C'est aussi pour cela que l'exécutif promet de changer de méthode. Les gilets jaunes et le grand débat sont passés par là. On va davantage associer les Français, les élus et les corps intermédiaires, explique un proche d'Edouard Philippe. Tout le week-end, le Premier ministre a consulté les représentants de la majorité. Il reste quelques arbitrages, notamment sur les questions fiscales. Les impôts des classes moyennes seront tranchés mercredi au déjeuner entre le président et le Premier ministre. Mais ce qui est sûr, c'est que les prochains mois vont être chargés. Bioéthique, économie circulaire, statut de l'élu, chômage, retraite, dépendance. Du côté de la majorité, certains s'inquiètent déjà. On risque la surchauffe du côté du Parlement.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Le gouvernement qui doit par ailleurs faire face à une crise profonde dans les services d'urgence, crise qui semble se durcir malgré les annonces de la ministre Agnès Buzyn jeudi dernier. Ce week-end, c'est l'hôpital Saint-Antoine à Paris qui a vu à son tour ses infirmiers, ses aides-soignants 13 sur 19 se déclarer en arrêt maladie pour épuisement. Plus de 90 services d'urgence sont touchés. Une grande manifestation est prévue demain.
Europe 1 est 8h05.
Nous allons maintenant partir en Grande-Bretagne où la bataille fait rage pour succéder à Theresa May.
Et ils sont 11, 9 hommes et 2 femmes à vouloir prendre la suite à la tête du gouvernement britannique. Les candidatures seront enregistrées aujourd'hui par le Parti conservateur. Les militants auront ensuite le dernier mot d'ici à la fin juillet. Mais un homme semble déjà faire la course en tête. Et il donne déjà des sueurs froides à Bruxelles, c'est Boris Johnson, partisan d'un Brexit coûte que coûte. Il menace même de ne pas payer la facture britannique si les Européens ne lui accordent pas les concessions qu'il réclame. Sa force, c'est sa popularité. À Londres, Anaïs Cordoba.
Avec sa crinière blonde, il est le seul homme politique que les Britanniques appellent par son prénom. Boris. Circulant à vélo dans les rues de la capitale britannique, coiffé d'un gros bonnet de ski, Boris Johnson ne craint pas le ridicule et se fait connaître pour son franc-parler et ses pitreries. Critique à l'égard de l'Union européenne depuis ses années de journaliste à Bruxelles jusqu'au banc du Parlement britannique, il devient en 2016 le porte-parole de la campagne pour le Brexit.
Mes amis, c'est la chance d'une vie. Reprenons le contrôle de notre pays. Car cette organisation dont nous faisons partie, l'Union européenne, est devenue méconnaissable.
Après la victoire du référendum, Theresa May le nomme ministre des Affaires étrangères. Mais en désaccord avec elle sur le Brexit, le trublion finit par claquer la porte. Bye bye, le clown ébouriffé et gaffeur. Le candidat au poste de Premier ministre a perdu du poids et remplacé les blagues par une ligne dure sur le Brexit qui promet aux Britanniques une renégociation totale avec Bruxelles ou une sortie sans accord le 31 octobre prochain. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Europe 1.
À suivre dans le journal de 8h, le roi Nadal, indétrônable à Roland-Garros. On fait le bilan de la quinzaine avec celle qui fut la pensionnaire de Roland-Garros pendant 15 jours, Corinne Boulou. A tout de suite.
Votre matinale info, Nicolas Aliagas.
La suite du journal avec vous, Sébastien Krebs. On va partir à présent à Oradour-sur-Glane, qui commémore aujourd'hui les 75 ans d'un terrible massacre.
Le 10 juin 1944, alors que les Alliés venaient tout juste de débarquer pour libérer la France, les SS y ont massacré 642 villageois, dont presque 200 enfants. Le général de Gaulle avait voulu laisser intactes ces ruines pour que le souvenir perdure dans ce village de Haute-Vienne, devenu symbole de la barbarie nazie. Aujourd'hui, au musée de la ville, le travail continue pour tenter de mettre un visage sur toutes les victimes. Reportage Victor Delande.
À la sortie du musée, un long couloir mène au village martyr. Sur les murs, une immense galerie de portraits des victimes, des photos collées sur des plaques en porcelaine. Les touristes les fixent longuement à l'image de Bertrand, très ému.
Ça personnifie en fait l'horreur de ce massacre, en voyant particulièrement le visage de ces enfants. Ça permet de mettre des traits sur un événement qui laisse complètement incrédule 75 ans après.
Ces visages, c'est l'association des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane et le centre de la mémoire du village qui les ont retrouvés. Un travail minutieux, comme l'explique Françoise Brissot.
On avait travaillé à partir des photos de classe, des photos existantes, des photos de mariage. On est allé plusieurs fois aux archives départementales, où on a passé en revue tous les demandes de permis de conduire, les demandes de carte d'identité depuis les années 30.
Sur les 642 victimes du massacre, il reste tout de même une centaine de noms sans photo. Plus le temps passe et plus les chances d'en retrouver une trace s'amenuisent. À Oradour-sur-Glane, Victor Dolande, Europe 1.
Sport maintenant, vous l'avez entendu il y a quelques minutes sur Europe 1, Rafael Nadal trouve que lui-même, cette victoire est incroyable. Il a gagné 12 fois Roland-Garros, ouais, Sébastien.
Et cela, jamais aucun joueur ne l'avait fait avant lui, dans aucun tournoi du Grand Chelem. 12 finales, 12 victoires. Nadal a éclaté en sanglots après 4 sets et 3 heures d'un match accroché contre l'Autrichien Dominic Thiem. Bonjour Corinne Boulou.
Bonjour Sébastien.
Malgré tout, il n'a jamais vacillé tout au long de la quinzaine et pourtant, ça n'était pas une évidence vu son début de saison.
Oui, c'est vrai que Rafael Nadal est obligé ces dernières années de composer avec des blessures, une blessure au pied en début d'année, un genou qui grince sur la tournée américaine et donc une préparation perturbée. L'Espagnol n'arrive à Roland-Garros qu'avec une seule victoire en poche sur terre battue, mais Une fois sur ces terres parisiennes, eh bien le numéro 2 mondial, qui avait même pensé interrompre hein, sa saison pour récupérer, enchaîne les victoires jusqu'à cette finale où Nadal fait du Nadal en mode rouleau compresseur face à un vaillant Dominic Thiem. Finaliste en Australie, l'Espagnol s'offre hier un 12e titre à Roland-Garros, deux fois plus qu'une autre légende du tennis, le Suédois Bjorn Borg, tout simplement phénoménal, et à 33 ans avec 18 titres de Grand Chelem au compteur, eh bien il n'est plus qu'à deux longueurs du record de Roger Federer à l'orée de la saison sur herbe.
Un mot de ce Roland-Garros en pleine mutation. On a connu une fin de tournoi à nouveau agitée avec une programmation encore perturbée par la météo. A priori, l'année prochaine, c'est fini tout ça ?
Écoutez, la première aile du fameux toit qui doit permettre de jouer en cas de pluie doit être posée mi-septembre pour des premiers essais en mars prochain. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un éclairage sur les quatre principaux courts de Roland-Garros pour la prochaine édition qui éviteront l'interruption des matchs pour cause d'obscurité. Et pour tenter de résoudre la question des loges vides, eh bien la direction du tournoi songe au surbooking pour faire en sorte que les matchs entre midi et 14h ne se jouent pas devant des tribunes clairsemées.
Ouais, quand on voit que même le jour de la finale, il a fallu demander aux ramasseurs de balles d'occuper les loges du cours central. Merci beaucoup, Corinne Boulou.
Moi, j'ai vu que, franchement que c'était blindé hier.
Ensuite, c'est plein.
Oui, c'est une histoire de timing aussi.
Exactement. Non.
Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience, de ces 15 jours Roland-Garros ?
Bah déjà, Nadal, forcément.
Non, mais à titre personnel.
À titre personnel, une superbe édition. Vous savez, il y a des éditions où on peut s'ennuyer et là, on ne s'est jamais
ennuyé. Vous êtes éclaté. Merci Corinne Boulou et merci Sébastien Krebs pour le journal de 8h. À demain.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos.
Vous m'aviez manqué, Vincent.
Oh, c'est vrai.
Je suis content de vous revoir, bonjour.
Bonjour à tous.
Vincent Hervouet aux commandes pour l'édito international et on va partir à Hong Kong où les habitants sont descendus en masse dans la rue. Ils rejettent une loi qui va autoriser en fait les extraditions vers la Chine. Qu'est-ce que ça signifie ?
Un million de participants d'abord, hein, selon les organisateurs. 240 000 selon la police. Qui a les noms, prénoms, âge, adresse, emploi, adresse Internet, etc. La police chinoise en sait davantage sur vous que Google, les impôts et votre voisin réunis. Elle parvient à reconnaître un passant à sa démarche. C'est encore plus sûr que l'identification faciale. Oula. Bon pied, bon œil, le progrès avance. Un million de participants, c'est trois grains de riz à l'échelle de la Chine. Il en faut davantage pour que le parti se réveille. 100 millions pour qu'il recule. Il y a des centaines de jacqueries d'émeutes en Chine dont l'écho reste enfoui dans les provinces. Mais quand même, un million de participants dans les rues de Hong Kong, c'est sans précédent. C'est toute la ville qui dit non. Ils étaient moins nombreux il y a 22 ans, quand le gouverneur britannique appelait l'île Union Jack avant de remonter sur son yacht. Ceux qui fêtaient alors la rétrocession à la Chine se doutaient bien que Pékin chercherait à rogner la liberté d'expression, de manifester, d'entreprendre. Et un pays, deux systèmes, c'est surtout le système judiciaire indépendant, l'état de droit. C'est pour ça que Hong Kong reste la troisième place financière au monde. C'est parce que la communauté d'affaires s'y sent encore en sécurité.
La loi débattue après-demain, en fait, permet d'extrader les suspects vers Pékin directement.
Oui, alors avec une petite limite, les cas d'évasion fiscale ne seront pas concernés, ni les crimes politiques, ni les crimes religieux. Alors, ils ne perdent rien pour attendre, parce que le parti a la mémoire longue. Fin avril, par exemple, 5 ans après le mouvement des parapluies, les leaders ont été condamnés à de la prison ferme, donc, pour de la désobéissance civile. Mmh. Il y a eu aussi l'enlèvement des libraires qui vendaient des livres interdits. Ils ont réapparu à la télé de Pékin, faisant leur mea culpa en tenue de prisonnier. Demain, il n'y aura plus à kidnapper les suspects, ils seront livrés. L'arrivée du TGV a d'ailleurs permis de construire une gare en plein centre de Hong Kong qui jouit de l'extraterritorialité. La police chinoise s'y tient prête pour des extraditions à très grande vitesse. Le progrès, toujours implacable. Les manifestants défilaient hier en dénonçant une loi maléfique, mais le diable est déjà dans la maison. Alors il faut admirer le courage de ces manifestants parce qu'ils sont comme les condamnés dans le couloir de la mort. Ils gardent espoir, mais le temps joue contre eux. Pékin refait l'Anschluss. La Chine est devenue si puissante que le monde regarde ailleurs, si capitaliste qu'elle n'a plus grand-chose à apprendre de l'ancienne colonie britannique et beaucoup moins de raisons de l'aménager.
Vincent Hervouet pour l'édito international sur
Bravo. Europe.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Restez avec nous, chers amis, dans deux minutes, l'interview politique avec Audrey Crespo-Marac.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Bonjour ma chère Audrey, qui est votre invitée dans quelques
instants ? Eh bien
écoutez,
il y a deux semaines, la France insoumise subissait une défaite électorale de même ampleur que les Républicains. Mais alors que Laurent Wauquiez a démissionné chez les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon se réfugie dans le silence. Éric Coquerel, député et figure de la France insoumise, sera mon invité.
A tout de suite.
Très bon réveil sur Europe 1, il est 8h15. Il est 8h18, Nikos Aliagas.
Le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, est votre invité, Audrey Crespo-Marat.
Bonjour. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Après les européennes, Laurent Wauquiez a tiré les conséquences de la déroute électorale des Républicains. Il a démissionné. La France Insoumise a subi une défaite de la même ampleur. Alors pourquoi Jean-Luc Mélenchon s'accroche-t-il à son poste ?
Pas tout à fait de la même ampleur. Bon, enfin bon, c'est pas le sujet. Non, nous on n'a jamais gouverné le pays, on n'a jamais eu des présidents de la République, on n'a jamais été majoritaire encore. Donc historiquement, c'est pas la même ampleur. Moi je pense que c'est... ça peut être juste une chute de tension, voilà. Si on ne prend pas garde à faire tout exploser et à partir dans des affrontements internes qui n'ont pas lieu d'être.
On a des affrontements internes qui n'ont pas lieu d'être.
Oui, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, de quoi rêve Emmanuel Macron ? Il rêve d'un schéma politique, d'un paysage politique qui se résume entre lui et le Front National, enfin le Rassemblement National. C'est-à-dire, en gros, il veut incarner le « eux et nous », vous savez, c'est-à-dire eux, l'extrême droite, rebaptisé populiste, nous, le camp des raisonnables, des démocrates, qui n'ont rien de raisonnable ni vraiment démocrate, mais qu'importe, des libéraux, on va dire. Bon, c'est peut-être pas la peine de leur faciliter le travail.
C'est-à-dire que ceux qui sont critiques aujourd'hui au sein de votre mouvement facilitent le travail d'Emmanuel Macron.
Non, je dis que...
Ils n'ont pas le droit d'émettre des critiques.
Non, si, bien sûr. Moi, j'appelle à la raison. Je commence à sentir monter, j'allais dire, des tensions, des mots, des anathèmes. Moi, je crois que c'est pas comme ça qu'on règle dans un même camp les questions politiques.
Alors, la critique on a l'impression de l'extérieur que Jean-Luc Mélenchon s'accroche à son poste.
Ah non, oui, d'accord. Jean-Luc Mélenchon, vous savez, son poste, quelque part, comme il le dit lui-même, ça, entre guillemets, sa carrière politique, j'aime pas trop le terme, mais son engagement politique, il a eu ce qu'il fallait pour lui. Je veux dire, il a été ministre, il a été deux fois candidat à la présidentielle, il a réussi à remonter notre espace politique, celui de la transformation, de la
mais
rupture d'émancipation
à
19%.
Défaite.
Donc je veux dire que
vous savez,
c'est un poste qui est surtout sous Emmanuel Macron, qui vit ses opposants politiques de manière forte, c'est un poste qui n'est pas évident.
Mais
aujourd'hui, est-ce que la question aujourd'hui, elle est ailleurs. Est-ce qu'on a autre chose en rechange que France Insoumise ? Voilà. Dans l'espace qui a été le nôtre, est-ce que si France Insoumise explosait, est-ce qu'il y avait un Big Bang, comme certains, comme Clémentine par exemple
propose ?
Voilà. Est-ce que les gens qui se sont sentis représentés par France Insoumise, qui ont envie de s'investir, des nombreux jeunes qui n'avaient jamais fait de politique, est-ce que vous pensez qu'ils vont aller dans d'autres forces pour recomposer quelque chose ? Moi, je ne crois pas.
Alors,
je pense
vous,
que ça serait un champ de ruines.
Vous, Éric Coquerel, il n'y a pas d'alternative à Jean-Luc Mélenchon à la tête de votre mouvement.
Mais c'est pas un problème d'alternative, c'est que, est-ce que, vous savez, on est dans la 5e République. À un moment donné, on a besoin d'une figure tribunicienne qui arrive à représenter ce que nous sommes. Moi, ce que je constate, c'est que pour l'instant, je ne vois personne qui est capable de fédérer en réalité de manière aussi presque naturelle, sans qu'il y ait de contradiction, à la fois ceux qui sont, par exemple, sur une ligne dégagiste, qui pensent qu'il faut tout dégager, et notamment les deux forces qui institutionnellement, j'allais dire, corsetaient la vie politique française, le Parti Socialiste du côté, entre guillemets, de la gauche, et puis ceux qui, on va appeler le peuple de gauche, qui se sent orphelin d'un mouvement de transformation. Jean-Luc, sans que ça soit contradictoire, arrive à synthétiser les deux, il arrive à fédérer les choses,
et aujourd'hui,
j'en vois pas d'autres qui sont capables de le faire.
Aujourd'hui, on leur reproche son autoritarisme. Charlotte Girard, l'une des figures des Insoumis, a décidé de quitter le mouvement. Selon elle, chez les Insoumis, tant qu'on est d'accord, tout va bien, mais il n'a pas de moyen de ne pas être d'accord. Elle parle bien de Jean-Luc Mélenchon en disant ça.
Ah non, je crois pas. Moi, j'ai lu la lettre de Charlotte.
L'autoritarisme de Jean-Luc Mélenchon, il est souvent dénoncé.
Moi, je conseille... C'est pas à vous, je m'adresse à vos auditeurs. Lisez entièrement la lettre, parce que dans sa lettre, elle met en question des choses et qui sont notamment les problématiques d'organisation, de fonctionnement. J'espère que nous allons, dans les semaines à venir, avec l'Assemblée représentative qui aura lieu le 22, le 23 juin, avec une coordination qui va se mettre en place, qui va représenter les différents espaces politiques, qui est nécessaire que, en réalité, tout le monde appelait de ses voeux depuis pas mal de temps, s'il n'y avait plus la campagne européenne. Je pense que nous l'aurions fait avant. J'espère qu'on va lui montrer qu'elle aurait mieux fait de ne pas partir, qu'elle aura même envie de revenir. Mais je n'ai pas vu dans sa lettre quelque chose qui met en question Jean-Luc Mélenchon.
Alors, Éric Coquerel, Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, reproche à Jean-Luc Mélenchon d'être dans la logique du clash pour provoquer le bruit et la fureur. Est-ce que c'est une stratégie politique ou une faille de
là
sa
encore,
personnalité?
Excusez-moi, je comprends, vous personnalisiez les choses, mais là encore, moi, Clémentine était il n'y a pas longtemps en face de moi, dans une réunion de groupe. Elle a dit clairement que ce n'est pas à Jean-Luc Mélenchon qu'elle reprochait ça, elle reprochait ça à notre mouvement dans son ensemble. Bon, moi je crois que le clash qui est recherché, c'est celui que le système nous impose, celui de la confrontation violente, celui par exemple d'avoir envoyé à un moment donné 100 policiers perquisitionnés pour des faits qui sont mineurs et qui ne sont même pas avérés, comme si on était des terroristes.
Donc, arrêtons-nous un instant là-dessus. En octobre dernier, effectivement, on se souvient tous de Jean-Luc Mélenchon, des perquisitions à son domicile et au siège de la France Insoumise, ça a beaucoup marqué les esprits. Est-ce que vous ne croyez pas que l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, ce jour-là, a nuit à son image et nuit encore à son image et à la vôtre, donc ?
Ah mais c'est très franchement, c'était un piège, voilà, qui nous a été tendu. Je pense que on a par exemple laissé monter une caméra comme celle du quotidien qui nous a jamais été véritablement très favorable.
Qui est critique à l'égard de tous les partis politiques.
Donc il y a eu des erreurs. Tout ça a été synthétisé. Une scène d'une heure a été synthétisée en une minute, exacerbant, j'allais dire,
la colère de Jean-Luc Mélenchon, etc.
Mais le vrai problème, la vraie question. Au-delà de telle ou telle réaction qu'on peut regretter, parce que la preuve, c'est qu'on a été manipulé, ça a été utilisé, etc. Donc ça n'a pas été positif à la fin. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a aucune force démocratique, association de défense des droits de l'homme, médias ne se sont insurgés sur le fait que nous ayons perquisitionné comme des terroristes. C'est quand même incroyable que l'opposition politique, qui à l'époque était considérée comme la plus forte vis-à-vis d'Emmanuel Macron, soit traitée comme des bandits, n'ait suscité aucune réaction et qu'on ait regardé seulement les faits, c'est-à-dire la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Ça nous a surpris et là, effectivement, on s'est trompé. On pensait qu'on allait être plus soutenu que ça.
Éric Coquerel, vous comptiez sur les européennes pour affaiblir Emmanuel Macron. Quand on voit dans le JDD que 72 élus locaux viennent lui apporter leur soutien pour les municipales, est-ce qu'au contraire, il n'en sort pas renforcé de ce scrutin ?
En tout cas, il continue la recomposition de son camp et des libéraux. Ça, c'est incontestable. Alors, je ne peux pas grand-chose pour les Républicains, vous l'admettrez, mais je peux quelque chose pour France Insoumise, en tout cas, en termes d'appel. Et justement, ne lui facilitons pas le travail. Donc moi j'en appelle à tous ceux qui quelque part ont des choses à dire et tout le monde peut le dire. Moi-même je m'exprimerai dans les semaines à venir sur ce que peut-être qu'il conviendrait d'améliorer, de modifier, etc. Mais ça ne vaut pas ni exclusion ni scission, voilà, ni anathème, ni j'allais dire d'exacerber les différences alors qu'au fond tout le monde est pour un mouvement citoyen qui permette à la fois de fédérer le peuple et qui permette aussi à tous ceux qui veulent soutenir ce mouvement d'en être. Donc, et ça, je n'ai pas vu de différence là-dessus, que ce soit entre Clémentine et d'autres.
On se souvient qu'en août dernier, Jean-Luc Mélenchon parlait de mettre une raclée démocratique à Emmanuel Macron lors des européennes. Finalement, est-ce que ce n'est pas lui qui a pris une raclée démocratique face au président ?
Non, n'exagérons pas. D'abord, je vous fais remarquer qu'Emmanuel Macron n'était pas le premier. Là, il est en train de nous maquiller quand même quelque chose qu'il s'était fixé comme objectif, être devant le Rassemblement National. Il n'y est pas parvenu.
Mais bon, il s'en sort beaucoup mieux que vous.
Peut-être, mais il n'y est pas. Oui, d'accord, il n'y est pas parvenu et il s'en sort avec tous les moyens. Et ça pose des questions démocratiques. Tous les moyens de l'État, tous les moyens de l'Assemblée nationale. Beaucoup de répercussions chez les éditorialistes, dans les médias, etc. On entend toujours la petite musique qui a mis en scène cette confrontation unique entre Macron et le Rassemblement National.
Vous n'avez pas de responsabilité intrinsèque à votre parti.
Non, si, on a des responsabilités. Sinon, on ne serait pas à 6 et quelques pourcents. Mais moi, la chose qui m'inquiète le plus, on peut regarder des points qui ont été, qui n'ont pas été, mais franchement, ce n'est pas ça qui explique qu'on soit passé, qu'on n'ait pas réussi à atteindre les 11-12% qu'on espérait. On vit une période de régression, de recul au niveau européen. Je parle de notre famille politique, quelle que soit par ailleurs la tactique, la stratégie utilisée dans tel et tel pays. Et notamment parce que, j'allais dire, dans l'espérance dégagée, dans la voie dégagiste qui court en Europe, les gens pour l'instant se tournent plus vers l'extrême droite. À tort, parce qu'en réalité ils défendent le même système finalement que les libéraux. Mais c'est un fait. Donc il faut en tenir compte et savoir comment à partir de là, on rebâtit sur nos forces. Et moi je pense que France Insoumise et les municipales, la première force, ça va être capable de se tourner vers ces classes populaires qui ont fait au départ le socle du résultat de Jean-Luc Mélenchon en 2017.
Merci Éric Coquerel.
Merci, c'était l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans un instant, on fera un point avec Laurent Cabrol pour la météo. L'essentiel de l'info à 8h30, la revue de presse de David Abiker. Et à 8h35, le journal de la Coupe du Monde féminine de foot avec Jérôme Lacroix.
Excellente matinée à tous sur Europe 1, il est 8h27. suivre l'essentiel de l'actualité, mais tout de suite, c'est la météo, Nikos, avec Laurent
Cabrol. Mon cher Laurent Cabrol, mais qu'est-ce que c'est que ce mois de juin, mon ami?
Oh là, franchement, vous avez raison, hein, c'est pas un grand mois de juin. En tout cas, c'est la marque de la journée. Cette journée sera instable, sera ponctuée d'averses, d'orages, de gros nuages. La semaine sera pratiquement de la même veine, à part une petite parenthèse jeudi peut-être. Et puis la première quinzaine également, puisque l'amélioration, si elle se dessine, n'apparaîtra que dimanche prochain. Et encore, on hume et on flaire un changement de temps qui n'est pas vraiment, vraiment flagrant. Donc, vous voyez, il va falloir prendre son mal en patience. Et tous nos amis qui pensent comme nous d'ailleurs, puisque tout le monde dans la rue dit ouais, attends, quand est-ce que tu vas te changer?
Faites quelque chose.
Je fais ce que je peux.
40 ans au service de la météo, monsieur, vous avez quand même vos entrées.
Oui, j'ai mon pouvoir. Et malheureusement, c'est le ciel qui commande. Allez,
sortez vos baguettes.
Donc, pour tout le monde, un temps agité aujourd'hui, avec, excepté comme tout de même la Méditerranée, nous aurons du soleil et du vent. Mais partout ailleurs, ce sera un temps avec averses, orages et nuages. Les températures entre 14 et 20 au nord, 19 à Paris, et entre 26 et 29 sur les régions de l'extrême sud.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le lundi 10 juin, toute l'actualité à 8h30 avec vous Nikos Aliagas.
L'hommage de toute une ville à ses héros, une marche silencieuse au Sable d'Olonne en mémoire des trois sauveteurs qui ont péri en mer vendredi. Ils tentaient de secourir un pêcheur, celui-ci n'a pas été retrouvé. Un chauffard en fuite après avoir percuté deux enfants hier après-midi près de Lorient. L'un d'eux est mort, l'autre est dans un état grave. L'automobiliste est monté sur un trottoir pour échapper à un contrôle de police. Le coup de gueule du maire de Montpellier contre les casseurs professionnels. Sa ville était la capitale des Gilets jaunes ce week-end. Et depuis novembre, la facture des dégâts causés lors des manifestations est estimée à près de 2 millions d'euros. Les candidats au poste de Premier ministre du Royaume-Uni ont jusqu'à ce soir 18h pour se déclarer. L'ancien maire de Londres et ancien ministre du Brexit, Boris Johnson, fait figure de favori pour succéder à Theresa May.
Europe 1. Et c'est l'heure tout de suite, Nikos Aliagas, de la revue de presse de David Abiker. Il est 8h32.
Bonjour David Abiker.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Bonjour.
À la une ce matin, trois mots qui riment crack, bac et trac.
Et le crack, c'est Raphaël Nadal, vous l'avez interviewé ce matin. Nadal qui fait la une d'à peu près tous les journaux. Mm-hmm. Herculéen, titre l'équipe à la gloire du demi-dieu de la terre battue et de ses 12 victoires à Roland-Garros. Nadal 12, roi de Roland-Garros, titre les dernières nouvelles d'Alsace. Seul sur terre, choisi sud-ouest. Et à la fin, c'est Nadal qui gagne, conclut le télégramme. Nadal, l'homme dont le bras ne tremble pas. Il n'a pas le trac, Nadal. Le trac qui fait la une du Parisien aujourd'hui en France, qui livre au futur bachelier quelques trucs pour ne pas flipper avant, pendant et après les épreuves. Le bac manquera-t-il de surveillants malgré les assurances de Jean-Michel Blanquer? La question reste posée ce matin à la une du Progrès et du Figaro, qui tire un portrait plutôt élogieux d'un ministre de l'Éducation qui, je cite, tient son cap malgré la contestation.
Alors il y en a un qui n'a pas le trac, hein. Lui c'est le Premier ministre, il y va.
Aucune pression particulière, confie un conseiller d'Édouard Philippe au Parisien aujourd'hui en France, à deux jours du discours de politique générale du Premier ministre mercredi. Un oral qui ne durera pas plus d'une heure, sinon on perd l'auditoire, poursuit le même conseiller, et une méthode qui ressemble à celle d'un bachelier pour une épreuve de dissertation orale. Toujours la même architecture, d'abord les bases, des parties entières, les plus politiques, et puis viennent ensuite les éléments techniques, on dirait un plan de dissert. Sur le fond, beaucoup d'écologie, les réformes de l'assurance chômage et des retraites, le plan pauvreté, le revenu universel et la fiscalité. Joker. C'est son heure, pouvait-on lire hier dans le journal du dimanche. Pour le petit bleu d'Agen, il s'agit de lancer la phase 2 du quinquennat. Mmh. Alors Macron sera en retrait pour laisser le Premier ministre prendre la lumière mercredi. Le président, lui, il parlera demain pour le centenaire de l'Organisation internationale du travail à Genève. Un discours centré sur les inégalités et la justice sociale, explique le Figaro. Prendre la parole, faire des discours, plaire, émouvoir, convaincre, c'est la une de philosophie magazine. Et c'est la hantise de Valentin, 20 ans, qui a perdu ses moyens à l'oral du bac français et tente de soigner sa peur de parler, nous explique le Parisien aujourd'hui en France. « Je veux entendre un cri de guerre, faut que ça sorte !» lui ordonne sa coach. Devant le miroir, le garçon semble se faire violence, décrit le quotidien. Un son semble vouloir sortir de sa bouche, puis... plus rien. Ils seront 800 000 la semaine prochaine à avoir le trac, un peu, voire beaucoup, au moment des premières épreuves du bac.
Et on apprend qu'il y a du bon et du mauvais trac, en fait. Ça, c'est un peu comme le cholestérol.
Exactement. Pour ce psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, le bon trac vous avertit du danger puis disparaît une fois passé à l'action. Le mauvais trac, lui, ne disparaît pas. Il épuise et empêche de faire ses preuves. Alors, il y a des remèdes, des coachs en confiance, comme pour Valentin. Danser sur sa musique préférée, suggère Shilina Hills, auteur d'un livre anti-trac. Des tisanes relaxantes, regardez les hommes politiques aussi, du genre Barack Obama. Ou tout simplement oser parler, articuler, faire l'exercice du stylo entre les dents, comme ça. Vous comprenez ce que je dis, Nico, avec un stylo entre les dents. Quand vous l'enlevez, ça vous rend plus clair, ça vous libère. Selon un thérapeute, le trac paralyserait 5% de la population, surtout les jeunes, sensibles au regard des autres, aux apparences. Le regard des autres, la peur, voilà qui pourrait expliquer la forme des nouveaux maillots de bain que le Figaro nous annonce comme la tendance de l'été. Enveloppant les maillots de ces dames, couvrant, on est plus proche du maillot de Nadal que du bikini, des maillots qui ressembleraient à des t-shirts, à des brassières de sport ou des juste au corps. Alors les raisons de cette couverture de la peau, le Figaro cite pêle-mêle le retour de la pudeur, l'affaire Weinstein, le mouvement MeToo, mais aussi la volonté de protéger son derme des rayons du soleil. Ultime argument, l'écologie, voyez-vous ça? Car avec un maillot couvrant, on met moins de crème et donc on pollue moins les océans. Tout est bon pour pousser à l'achat. Quant à la pudeur, des maillots une pièce à manches courtes, ça va transformer la plage en grand concours de t-shirts mouillés. Elle a bon dos, la pudeur.
Vous avez l'esprit, vous avez la voix, vous avez la justesse, David Abiker. Et vous connaissez l'histoire de la jeune actrice qui monte sur scène et qui dit « Moi, j'ai jamais le trac ». Et l'autre qui lui répond « T'inquiète pas, ça viendra avec le talent ». Voilà. C'était la revue de presse avec David Abiker.
Et il est 8h36, c'est l'heure du journal de la Coupe du Monde féminine de foot, dont Europe 1 est la radio officielle.
La Coupe du Monde féminine,
l'événement foot est sur Europe 1.
Tous les jours à 8h35, le journal de la Coupe du Monde féminine avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Les titres ce matin.
Les Françaises enchantées, les Argentines mésestimées et l'histoire d'une Brésilienne joueuse la plus âgée. Ça ressemble bien à un changement de décor, Nikos, pour les Françaises. Double changement. Déjà, au revoir l'Île-de-France, bonjour la Côte d'Azur. C'est à Nice qu'elles affrontent mercredi les Norvégiennes. Deuxième match. Changement de décor aussi niveau sonore. Entraînement hier sous les yeux de 500 personnes. Bah, c'est peu ou prou l'affluence que connaissent certaines joueuses lors de leurs rencontres de championnat chaque fin de semaine. Mais là, on parle d'un simple entraînement. Eh oui, mais entre-temps, un certain France-Corée du Sud est passé par là. Mm-hmm. Match d'ouverture vendredi soir, large victoire. Et 10 millions de téléspectateurs. Succès 1, sportif 2, populaire. C'est le double effet Miss Cool qui ravit l'attaquante Delphine Cascarino.
C'est vraiment important parce que, comme vous l'avez dit, on est un peu dans une bulle. On l'a vu une heure avant l'entraînement, il y a déjà beaucoup de monde présent devant les grilles. Et c'est vraiment étonnant pour nous. On n'a pas l'habitude et on espère qu'ils seront encore là jusqu'au bout.
Et l'entraînement hier qui a aussi été le théâtre d'une séance de dédicace pendant une dizaine de minutes.
Une séance que n'a pas ratée la défenseuse Wendy Renard.
Même si elle n'a pas participé à l'intégralité de l'entraînement, touchée à un adducteur, repos de précaution, dit le staff, elle devrait être présente cet après-midi. Préparation donc de France-Norvège, match mercredi. Et cela s'annonce la Norvège comme l'affrontement le plus relevé des trois matchs du premier tour.
Et l'équipe à suivre aujourd'hui, Jérôme, c'est l'Argentine.
Argentine-Japon, 18h au Parc des Princes. Et Argentine, pour qui le foot est un combat, tant ce sport dans leur pays est une affaire d'hommes. Des Argentines mésestimées, écoutez cela pour preuve. Leur fédération, parfois, ne réserve aucun hôtel pour les déplacements. Les joueuses doivent alors dormir dans le bus les veilles de match. Fonctionnement quasi autarcique et souvent, eh bien c'est pesant. La gardienne Agustina Vidal.
J'ai tellement lutté pour jouer, j'ai tellement souffert. Parfois c'est trop difficile, mais j'ai ce rêve de voir des femmes jouer au foot et qu'elles puissent en vivre.
Les résultats d'hier, Nikos, et je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre ceci. Flowers of Scotland joué hier à Nice parce que c'était l'Écosse contre l'Angleterre. Les Anglaises ont gagné ce match 2-1. Par ailleurs, victoire surprise des Italiennes face aux Australiennes 2-1 également et succès 3-0 des Brésiliennes sur les Jamaïcaines.
Les Brésiliennes justement. C'est l'histoire du jour.
L'histoire de la formidable Formiga. Formiga, surnom de cette footballeuse brésilienne. À 41 ans et 98 jours, elle a entamé hier sa 7e Coupe du Monde. Elle les a toutes connues, sauf la toute première en 1991.
Merci Jérôme Lacroix, c'est le journal de la Coupe du Monde féminine avec vous. Hier à Roland-Garros, Nadal vous cherchait.
Il
est où Jérôme? Jérôme Lacroix.
Je vais envoyer un petit SMS.
Merci beaucoup, à demain.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Ne bougez pas, il arrive, la star de la matinale, Nicolas Canteloup et sa revue de presse avec Julie, qui n'est pas encore en studio, elle doit être dans le coin. A tout de suite.
Un bon réveil avec Nicolas Aliagas sur Europe 1, il est 8h40. Il est 8h42.
Voili voilo, il y a de l'air dans le tuyau. Il arrive, Nicolas Canteloup.
C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup et Julie.
Samedi, c'est donc l'acte 20 des Gilets jaunes. Le dernier a été marqué par la blessure de cette Geneviève Le Guay, justement, et par la petite phrase d'Emmanuel Macron. À cet âge-là, on ne se met pas dans des situations comme ça.
Alors, écoutez, c'est scandaleux. Ah, oui, bonjour, M. Lagarde.
Bonjour,
M.
le Président.
Merci pour le gâteau hier. J'ai une délicate attention. À cet âge-là, je t'en ficherai. Quand vous dites à cet âge-là, même le clair, je t'en ficherai, je m'en ficherai, moi, cet âge-là.
Bonjour, monsieur Giscard d'Estaing.
Oui, bonjour.
On est bien content de vous entendre.
Oui, oui, je sais pas, m'adoué. Je suis colère.
Vous êtes colère ?
Je suis remonté comme une Julie. Oui, remonté comme une pendule. Vous l'avez autour de la table. Monsieur Cabron l'avait, le plus réactif de tous. Alors que monsieur Abicard reste silencieux, tel une lexu. Écoutez, est-ce que vous avez entendu le Macron? Alors quand on est vieux, on reste chez soi, c'est ça le message, on n'a plus le droit de manifester, on est tout juste bon à avoir Alzheimer, mais moi demain, je vous le dis, j'aurais prévenu, je serai dans la rue. Nous les vieux, on gueule si on veut. Le troisième âge, on est des sauvages. J'ai le slogan.
Les beaux slogans.
Nous les vieux, on gueule quand on veut. Le troisième âge,
on est des sauvages. Entendu. Bon, elle vous plaît pas donc cette phrase d'Emmanuel Macron apparemment. Hein.
Mais franchement, même Leclerc, il croit quoi? Que passer 80 balais, on est juste bon à jouer au Scrabble les yeux dans le vide avec des aides-soignantes en bavant sa camomille.
Oh là là, mais arrêtez.
Mais vous avez l'image, mais je t'en foutrais, moi, des vieux fragiles qui peuvent pas manifester. Moi, je vais aller fracasser dès demain du CRS avec mon déambulateur et piller des boutiques au Dica. Oui, je payais beauté. Moi, je m'en fous de faire casser les dents par les flics. De toute façon, j'en ai plus. Ils sont feintés. Les anciens ont pillé les magasins. Les vétérans, on cramera tous les champs.
Ségolène Royal n'a toujours pas communiqué pour qui elle allait voter. On l'accueille tout de suite. Bonjour Ségolène Royal.
Oui. Ségolène Royal, c'est de la quiche.
Oh là là.
Oh, écoutez, non mais franchement, je vous en prie, monsieur Apoti. Dites donc, qu'est-ce qu'il lui prend?
On reprend. Ségolène Royal, on dit que vous faites monter les enchères.
Mais oui, bah écoutez, qu'est-ce que vous me donnez pour répondre à cette question?
Qu'est-ce qu'on va lui donner? Une montre Europe 1, je sais pas.
Oui. Allez, bah écoutez, je prends la montre alors. C'est sûr, ça très... attendez, c'est quoi, oui, c'est mon téléphone, pardonnez-moi. Vous me le passez, monsieur Aliagas? Voilà, attendez. Voilà, merci. Oui, la régie, je viens d'appuyer sur le bouton pour décrocher, donc voilà, merci. Si on n'est pas synchro, ça ne peut pas marcher. L'auditeur n'est plus dans l'imaginaire, vous comprenez? Donc oui, le papa... excusez-moi, attendez un instant. Oui, je fais celle qui est au téléphone. Oui, allô? Ah, c'est Yannick Jadot. Oui, Yannick, oui. Oui, est-ce que tu me proposes? Oui. Un an de gel douche ou choya, une toilette sèche. Oui, c'est pas mal, je vais réfléchir. Mais tu sais que Macron m'a proposé un poste de commissaire européenne et un an de thalasso au Touquet. Hein, donc tu as jusqu'à ce soir pour faire une offre plus haute, hein, c'est ça, voilà.
Et là elle raccroche.
Là elle raccroche, il y a marqué, donc peut-être un bruit de je ne sais pas en régie. Non, on n'a plus. Peut-être que la régie a cramé aussi. Oui, voilà.
La régie est en feu.
Oui, très bien.
C'est Jadot qui n'avait pas accroché.
Oui, ça doit être un téléphone filaire. Le temps que le truc arrive au bout du fil. Alors, on en était où, madame Julie?
Je voulais savoir si c'était bien moral de monnayer son soutien comme ça, comme vous le faites.
Oui, mais vous me donnez quoi pour répondre?
Oh, je vous ai déjà, écoutez, écoutez, je vous ai déjà donné une montre Europe 1.
Oui, d'accord, mais entre-temps, RTL m'a proposé un café et la valise RTL. Désolé, hein.
Alors bon, on vous laisse. Hein. Merci Ségolène Royal.
Ah, ça, il est parti au bon moment. Bravo le texto. J'ai un texto qui est arrivé. Oui, bravo la régie. Oui. Oh, c'est Dupont-Aignan qui me propose une semaine, tout compris, dans sa résidence à temps partagé de Palavas-les-Flots, en échange de mon soutien. Mais écoutez, je vais aller de ce pôle lire son programme à Dupont-Aignan.
C'est ça. Allez, à bientôt, Ségolène Royal. Allez, pour terminer, après l'alerte donnée par les scientifiques du monde entier, Emmanuel Macron a annoncé des mesures ambitieuses sur la biodiversité. Le président est-il devenu vert? C'est la nouvelle question du jour.
Le président est-il devenu vert? Oui, mais bien sûr que non, ne soyez pas naïve, madame Leclerc.
Jean Lassalle, vous n'avez pas été convaincu, on dirait. Hein.
Mais bien sûr que non, Emmanuel Macron n'est pas vert. Allons. En revanche, nous allons l'être. On sera bientôt vert quand on verra qu'il n'a aucune intention réelle, affirmée, et de transformer radicalement cette société qui est en train de s'asphyxier. Je me suis un peu emballé. Je n'avais pas de réplique sur mon texte qui était marqué, donc j'étais un peu à court d'arguments.
Moi, j'ai du mal à enchaîner
à chaque fois. L'esprit.
Alors, qu'est-ce qui vous déplaît dans ces mesures? Sanctuariser des terres, favoriser l'agriculture biologique, recycler du plastique, tout ça, c'est pas mal quand même.
Non, ce sont des vœux pieux. Ils font annoncer des choses précises.
Alors, quoi?
Il faut, par exemple, comment protéger les araignées. Ça, c'est du concret. C'est c'est facile d'être goguenard. C'est important, les araignées, parce qu'elles nettoient les moucherons morts qu'on a tous dans la barbe. Monsieur Cabrol le sait. Il faut protéger les hérissons. C'est une urgence. On a besoin de hérissons pour se curer les dents. Il faut. Mais d'où croyez-vous qu'ils viennent les curer les dents? Il faut. C'est une urgence. Avant l'été, protéger les marécages. Sinon, où va-t-on se baigner pendant les vacances? Tout ça doit être précisé dans le projet.
À la campagne, est-ce que vous voyez une chute de la biodiversité, vous, Monsieur Lassalle?
Mais bien sûr que je la vois. Ah. Au quotidien, en réel, c'est concret.
C'est-à-dire?
Déjà, rien que dans mon nez. La population d'abeilles et de mouches a chuté de 70%. J'exige que l'État sanctuarise mon nez.
Demain, il revient en direct. Notre ami, c'est un petit best-of. Jour férié oblige, Céline Dacosta.
Oui, et pensez à aller voter pour votre imitation préférée de Nicolas Canteloup. Ça se passe sur Europe1.fr en cliquant sur la page du Club Europe 1.
La plus belle, Wendy Bouchard, le tour de la question à partir de 9h, c'est-à-dire dans moins de 10 minutes.
Moins de 10 minutes, voilà, avec une première question en débat. On va se demander si un monde agricole sans pesticides est possible. La France est le premier consommateur de pesticides, de produits phytosanitaires aujourd'hui en Europe, troisième au monde. Nous avons un système qui depuis 50 ans aujourd'hui se répand un peu partout, comme dans les systèmes d'épandage. Alors est-ce qu'on peut en changer? Est-ce que agriculture et écologie peuvent cohabiter? Nous serons avec des représentants agricole, évidemment, avec François Bayrette qui tire la sonnette d'alarme en nous disant que 80% de nos fruits et légumes comprennent des traces et des résidus de pesticides. Mm-hmm. Puis à 10h, je ne sais pas si vous la pratiquez, c'est vrai que c'est culturel et un peu sudiste, la sieste. Eh bien, notre invité en fait une éloge, un éloge absolu. Ben oui, c'est ça.
Je dors tous les jours à l'heure du déj avec mon fils.
Et ben, vous avez tout compris, c'est la médecine de poche, la sieste. Revigorante, elle est extraordinaire, pleine de pouvoir.
Cellules.
Les vertus, on en parle pendant une heure.
Même une sieste courte de 20 minutes. Il faut juste le bon créneau, parce que dès qu'on passe le temps réglementaire, on est vaseux.
Vous avez tout compris la vie, bravo.
Merci beaucoup. Je reviendrai à 10h pour témoigner. Masqué, avec la voix changée. Wendy Bouchard à partir de 10h pour le tour de la question.
Et Wendy qui attend vos appels dès maintenant 3921 à suivre la météo et l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1. Il est 8h54, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nikos Aliagas. Tout de suite on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Eh bien écoutez, je ne sais pas si vous êtes, chers amis, fidèles à nos programmes. En tout cas, vous le savez, au début du mois, je vous avais dit qu'il était dans les tuyaux, que les 15 premiers jours ne seraient pas agréables. En revanche, là maintenant, je peux quand même vous dire qu'on ne voit pas grand-chose après le 15. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé vous annoncer qu'à partir du 15 ou du 16, le soleil allait se réinstaller largement. Pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il se réinstalle largement. Heureusement, nous sommes au mois de juin et dès qu'il y a une éclaircie, c'est vraiment un espace de soleil et de chaleur qui s'installe. Aujourd'hui, c'est la pluie pour beaucoup d'entre nous, surtout si vous habitez l'Alsace, la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes, avec même des orages. Tout ceci va gagner la Lorraine, la Bourgogne, l'Auvergne, la Champagne et les Ardennes. Sur Paris, sur le Nord, la Picardie, la Normandie, nous aurons un temps d'averse ou de petites pluies qui seront assez rapprochées dans l'ensemble. Poitou-Charente, maintenant Limousin et Centre, nuages surtout. Et puis sur le bassin méditerranéen, c'est la chance qu'il y a en France aujourd'hui, du soleil. Et même s'il y a un peu de tramontane, il fera 29 à Marseille, 28 à Bastia, 26 à Nice. Ça, c'est un endroit où il n'y a pas de tramontane, mais ce sera donc très chaud. Et partout ailleurs, ce sera très frais, entre 14 et 18, 19 au nord, notamment 19 à Paris et 14 degrés à Brest. Voilà.
Merci Laurent Caporal, à tout à l'heure.
Nous sommes le lundi 10 juin, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Le 12e sacre de Rafael Nadal à Roland-Garros, le taureau de Manacor s'est imposé en 4-7 face à l'Autrichien Dominic Thiem. Il se confiait en exclusivité ce matin sur Europe 1. Rafael Nadal, invité exceptionnel de la matinale, c'était à 7h45.
Lorsque je m'écroule, en fait, je ne réfléchis à rien. C'est l'adrénaline qui descend d'un coup et puis toute une série d'émotions qui passent. Ce sont des moments, on essaye d'en profiter un maximum. Et au fur et à mesure des années, nous savons que les occasions, il y en aura de moins en moins. Mais au-delà de tout cela, l'idée, c'est d'avoir des bonnes sensations, d'en profiter, de prendre plaisir. Et le fait d'avoir remporté 12 trophées de Roland Garros, c'est incroyable.
Unique et très bonito et très spécial.
L'inquiétante défiance à l'égard des vaccins. Les Français se vaccinent de moins en moins. Les conséquences sont dévastatrices. Chaque mois, des enfants dans notre pays perdent la vie à cause de la réapparition de maladies infectieuses, comme la coqueluche par exemple, qui peut être transmise au bébé par des parents non vaccinés. Écoutez à ce sujet le professeur Robert Cohen, pédiatre à l'hôpital intercommunal de Créteil. C'était à 7h20 dans Europe 1 va plus loin.
On a des cas de coqueluche qui sont souvent des formes graves, hein. Qui surviennent dans les 3 premiers mois de vie avant que les enfants aient été vaccinés. Et la raison essentielle, c'est justement c'est que l'entourage n'est pas assez vacciné. Ce sont des enfants qui sont dans un état sévère, qui justifie qu'ils aient de l'oxygène, qu'ils soient ventilés et qu'ils sont hospitalisés sur des périodes relativement longues.
C'est le lundi de Pentecôte, et pour vous, est-ce que vous partez travailler? Est-ce que vous êtes tranquillement à la maison, jour férié? Vous nous écoutez, une chose est sûre, pour cette journée de solidarité, tout le monde contribue à l'aide aux personnes âgées dépendantes, mais à chaque entreprise, son mode de fonctionnement. Et certains sont un peu perdus, écoutez, c'était dans le journal de 7h30.
Non, je ne travaille pas le lundi de Pentecôte, c'est un jour de solidarité, mais nous ne travaillons pas. C'est un accord de la société. Je ne suis pas au courant du tout comment ça fonctionne.
C'est un jour qui n'est pas férié depuis de nombreuses années dans mon entreprise. Mais là, on est obligé de poser un RTT employeur pour ne pas être présent parce qu'on est chez un client qui, lui, la journée est fériée chez lui.
Et la météo, on l'a dit, un mois de juin très étrange, où on attend le soleil. Alors la meilleure façon, c'est de l'invoquer, de l'espérer en écoutant de la bonne musique. Si je vous dis que Bruce Springsteen sort un tout nouvel album, vendredi 14, qui sera intitulé Western Star, ça vous fait sourire les amis. Eh bien écoutez, voici un extrait, ça s'appelle Hello Sunshine. You know I always liked my walking shoes. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Hello sunshine, premier extrait de l'album de Bruce Springsteen, The Boss, qui sort cette semaine, vendredi. Voilà pour l'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Merci à toutes les équipes. Merci de votre fidélité. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1, prenez soin de vous. Tout de suite, Wendy Bouchard, le tour de la question. C'est toujours passionnant. Et ça commence dans quelques secondes. Céline Dacosta, je vous embrasse. À demain.
Moi aussi, je vous embrasse. À demain.